de définir ce qu'est la sexualité. D'abord, il faut que l'homme comprenne éventuellement que la sexualité, c'est une énergie qui est contrôlée par le double de l'homme. Quand je dis que la sexualité, c'est une énergie qui est contrôlée par le double de l'homme, je dis que la sexualité, c'est une énergie qui peut être totalement contrôlée par le double de l'homme, à l'insu de l'ego. Ceci veut dire que sur la Terre aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément d'hommes et de femmes qui souffrent de leur sexualité psychologiquement parce qu'ils ne savent pas, ne comprennent pas que leur sexualité est sous le contrôle du double. Et que le double se sert de la sexualité, autrement dit de cette énergie qui est très très importante pour l'homme astralement, soit pour ajuster son corps astral, soit pour ajuster son corps mental, ou soit pour lui faire vivre certaines expériences qui relèvent d'une mémoire karmique qui doit être épurée dans la vie présente. L'homme a l'impression que sa sexualité est sous le contrôle de son ego. Et cette impression, elle est exactement la même que l'homme possède de son libre arbitre. L'homme a l'impression qu'il y a un libre-arbitre, c'est quand il conscientise qu'il s'aperçoit que le libre-arbitre est une illusion et qu'il va vers une autre conscience où il connaît la liberté réelle. Et au niveau de la sexualité, c'est la même chose. L'homme a l'impression que sa sexualité est sous le contrôle de son ego, et tant qu'il vit cette impression ou cette illusion, il peut, dans certains cas, souffrir dans sa sexualité. Parce que il ne pourra pas la vivre comme les hommes dans l'humanité ambiante la vivent, eux. Donc, lui se culpabilisera, développera des complexes d'infériorité, vivra différents états de solitude, de tristesse, ainsi de suite. Le problème fondamental de la sexualité dans notre humanité aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir reconnaître que la sexualité n'est pas aussi importante qu'on le laisse savoir. L'importance qu'on donne dans le monde à la sexualité, c'est à cause de l'insécurité psychologique de l'ego. Et l'homme est beaucoup plus insécure dans sa sexualité que la femme, parce que c'est lui qui déjà l'apporte. Donc, si elle lui est retenue, pour quelque raison que ce soit, ne comprenant pas et n'étant pas conscient des mécanismes derrière la façade, lui, il en souffre et automatiquement, sa vie psychologique, égoïque, égocentrique en souffre. La sexualité, dans le passé de l'humanité, a été extrêmement contrôlée par les formes morales, les formes de religion, les formes de philosophie, parce que c'est nécessaire avant que l'homme devienne conscient. Autrement dit, avant que l'homme soit dans son intelligence, qu'il soit guidé dans son activité sexuelle. Sinon, son activité sexuelle aurait été trop sous l'influence de son corps de désir. Donc, étant puissante, cette activité sexuelle-là, il y a eu dans la société un déséquilibre énorme. Si on prend le problème de la sexualité dans l'évolution, dans le passé, et on le regarde en fonction de l'avenir, change complètement. La sexualité, l'avenir de l'humanité sera vécue différemment qu'elle l'était dans le passé, parce que dans l'avenir de l'humanité, l'homme, l'individu, aura découvert son identité. Donc, il vivra sa sexualité en fonction de l'énergie du double qui passe à travers ses sens et qui lui fait vivre sa sexualité, mais non pas psychologiquement. L'homme ne vivra plus sa sexualité psychologiquement, il la vivra simplement sur le plan de l'énergie, simplement en tant qu'expérience vibratoire. Donc, il sera totalement libre d'une certaine subjectivité qui est à la base des tabous vis-à-vis cette expérience-là. Si on prend l'homme comme étant un canal, autrement dit un être qui est fait de plusieurs plans, mental, astral, vital, physique, et qu'on regarde l'énergie qui descend dans ces plans-là, cette énergie-là allume les atomes centrales de ces plans-là. Donc, cette énergie-là, quand elle passe au niveau du mental, elle rend l'homme intelligent. Quand elle passe au niveau du plan astral, elle lui donne une certaine émotion, une certaine sensibilité. Quand elle descend au niveau des plans inférieurs, elle lui donne une sexualité. Donc, la sexualité, dans le fond, c'est l'expression dans la matière de l'intelligence pour le bénéfice de l'homme, pour balancer ses vibrations, et aussi pour le phénomène de l'appropriation. Mais l'homme ne le voit pas comme ça. L'homme, il voit la subjectivité, la sexualité comme une expérience vitale dans sa vie qui, si elle n'est pas vécue, le désenchante complètement, à moins qu'il fasse des vœux de chasteté. Mais l'homme devrait voir la sexualité comme étant la continuation dans son système psychique de cette énergie-là, qui est infinie, et qui se manifeste sur un plan inférieur pour ce qu'elle doit faire. Mais il doit la vivre en dehors de la problématique psychologique de sa sexualité. Il doit le vivre en dehors de toute sa subjectivité pour la vivre d'une façon pleine, d'une façon intelligente, d'une façon qui convient raisonnablement à son état énergétique, au lieu de la vivre d'une façon totalement astrale ou totalement, en parenthèse, animale, mais sans intelligence. Pour que l'homme vive sa sexualité d'une façon normale, il faut qu'il la vive en conscience, c'est-à-dire qu'il faut qu'il en comprenne la progression. Il faut qu'il en comprenne le lien avec son énergie indifférenciée. Il faut qu'il en réalise l'intelligence. S'il en réalisait l'intelligence, à ce moment-là, il ne ferait pas interférence avec cette énergie-là. Il n'essaierait pas de se l'accaparer, donc il n'aurait pas sur la Terre de problèmes de surpopulation. Les problèmes de surpopulation qui existent sur le globe relèvent du fait que l'homme est incapable de vivre sa sexualité d'une façon intelligente. Il la vit simplement d'une façon astrale et animale, au lieu de la vivre d'une façon intelligente et animale en même temps. Mais c'est difficile pour l'homme de réaliser qu'il puisse vivre sa sexualité d'une façon intelligente et animale en même temps, parce que l'animal, pour lui, est déjà tabou. L'homme n'est pas capable de se concevoir animalement, parce que se concevoir animalement déjà implique chez lui une valeur. Lorsqu'en fait, la condition animale de la sexualité est simplement le produit de l'activation sur un plan inférieur d'une énergie qui est cosmique et à l'intérieur de laquelle il n'y a aucune forme, à l'intérieur de laquelle il n'y a aucune psychologie, et à l'intérieur de laquelle il n'y a simplement qu'un échange d'énergie entre un plan supérieur et un plan inférieur. Donc, la sexualité, c'est comme manger. Seulement, c'est manger une autre nourriture. C'est balancer un autre centre d'énergie. La sexualité, c'est terminal. L'énergie qui descend des plans supérieurs vers l'homme, elle peut pas toujours rester dans le mental. Elle peut pas toujours rester sur le plan émotionnel. Il faut qu'elle descende, il faut qu'elle se canalise. Si elle se canalise pas dans la sexualité le jour, elle se canalisera dans la sexualité la nuit. Mais il faut qu'elle se canalise, cette énergie-là, pour retourner à l'énergie indifférenciée. Mais l'homme, in the meantime, lui, pendant qu'elle se canalise, cette énergie-là, il fait du chanting. Il va en prendre un petit peu plus. Il veut en avoir un petit peu plus parce que cette énergie-là relève du pouvoir de l'infinité de l'énergie. L'homme vit un peu de l'infinité de sa conscience dans la sexualité. C'est pour ça qu'elle est si puissante. Ça dure pas longtemps, heureusement, parce qu'il y a une crise cardiaque. D'ailleurs, il y en a qui l'ont, la crise cardiaque. Alors, cette énergie-là, il faut qu'elle soit vécue, et elle est vécue dans son infinité, et ensuite, elle cesse. Mais l'homme, lui, il veut qu'elle continue. Puis il veut qu'elle continue. Puis c'est jamais assez long pour lui. Puis il n'a jamais assez pour lui. S'il prend en vie 24 heures par jour, pas y travailler, il le fera. Parce que cette énergie-là est tellement forte qu'elle représente pour lui l'aspect ultime de la joie de son corps matériel et de son corps astral. Mais il ne réalise pas aussi qu'il doit vivre dans l'harmonie de son corps mental, de son corps astral et de son corps matériel. Donc, l'homme aujourd'hui, l'homme de l'involution, ne vit pas sa sexualité consciemment, il la vit inconsciemment, et de cette inconscience naissent toutes les conséquences de la sexualité qui est vécue à toutes les sauces dans le monde, et qui crée les problèmes psychologiques que nous reconnaissons. Parce que il faut reconnaître que l'homme vit par comparaison sur la terre, tant qu'il n'est pas centré. Fait qu'imagine-toi, si tu travailles dans un bureau, pis t'as un gars là qui est beau, pis c'est un vrai James Bond, pis des guidons, il y en a quand tu veux, pis toi, t'en as quand tu peux, c'est évident que ça crée un problème psychologique, parce que tu vas te comparer. Mais l'homme, lui, qui l'a quand tu peux, il réalise pas que celui qui l'a quand tu veux, il est pogné avec les mêmes problèmes. D'autres problèmes. C'est comme le gars riche. Le gars riche a ses problèmes, puis le gars pauvre a ses problèmes. Il s'agit pour l'homme de pas être, d'être ni pauvre, ni riche, mais d'être intelligent. Fait qu'à ce moment-là, le James Bond est intelligent, mais il vivrait sa sexualité d'une façon consciente. Le type qui l'a quand tu peux, il la vivra d'une façon consciente, mais il ne souffrira pas de l'avoir quand il peut. Quand il l'aura, il l'aura. Puis l'autre qui l'a souvent, il l'aura souvent. Puis il y aura une harmonie. Et c'est ça qui manque chez l'homme. Parce qu'on vit par comparaison. Et aujourd'hui, le phénomène de comparaison est tellement vaste dans la société. Tu as des femmes à télévision qui sont des vraies déesses. Toi, t'es toute croche. T'sais? Des gars qui sont des vraies beautés, puis toi, t'es 5 pieds 2. Fait que l'homme vit dans un état psychologique qui est tellement déformatoire qu'il n'est pas capable de réaliser que sa sexualité, c'est pour lui, en convenance avec lui, selon les lois d'énergie de son double. Pour comprendre ça, il faut qu'il soit en communication télépathique avec son double. À ce moment-là, la sexualité n'est plus importante psychologiquement, elle devient importante vibratoirement, et l'homme ne vit plus les tabous, ne vit plus les inquiétudes, les tristesses et les solitudes qui viennent avec une sexualité mal vécue.
Y a-t-il une relation à faire avec cette énergie qui passe dans les différents plans de l'être humain et l'intelligence de l'être humain ou ses fonctions cérébrales? On dit souvent que les gens ont eu des sexualités non raisonnables, mais ce sont eux qui étaient les grands peintres, les grands poètes, les grands écrivains.
Les grands peintres ont eu des sexualités non raisonnables parce que les grands peintres étaient des gens qui vivaient énormément au niveau de l'astral. Et dans leur astralité, il convenait... Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la sexualité d'un autre point de vue. Si l'homme pouvait sortir de son corps matériel et aller sur des plans, l'homme découvrirait que l'énergie de la forme de la sexualité, la forme, je ne parle pas de l'énergie de la sexualité, je parle de la forme, elle est créée de toutes pièces sur des plans pour l'activité sexuelle de l'homme. Autrement dit, sur les plans, il y a des êtres dont la fonction est de créer de l'imagination pour que l'homme puisse se servir de cette imagination créée pour qu'il y ait chez lui une sexualité. Donc, c'est pour ça que souvent des gens qui ont énormément d'imagination, qui sont très astrales, qui sont en communication intuitive avec ces plans-là, vivent une sexualité très abondante parce que dans la sexualité, il y a deux courants d'énergie. Il y a un courant d'énergie qui lie l'homme à la Terre. Il y a un courant d'énergie qui lie l'homme à l'esprit. Et dans les peintres, chez les peintres, chez les artistes, le courant d'énergie qui lie l'homme à la terre est plus fort que le courant d'énergie qui lie l'homme à l'esprit. Donc, ces peintres-là sont obligés de vivre une très intense sexualité afin de refouler en eux le trop-plein d'imagination. Sans ça, les gars, ces hommes-là perdraient la boule, ils perdraient l'esprit. Un grand peintre, ces grands artistes-là vivent tellement au niveau de l'imagination qu'il faut absolument que cette énergie-là soit canalisée sur un plan inférieur. Donc, ils vivent une très grande ou une active sexualité. Et ça, c'est devenu un mythe. C'est devenu un mythe tellement puissant que si vous regardez souvent dans les romans ou les téléromans, vous allez voir qu'il y a des femmes riches dans le monde qui vont aller se taper un peintre quelque part à Capri, pour le week-end. Parce que ça fait partie de la mythologie sexuelle. On est des êtres qui vivent de mythologie. On vit d'histoire. Et si on ne peut pas, nous autres, vivre notre histoire comme le peintre la vit, automatiquement, on est désenchanté. Donc, on fait des efforts. Et c'est ça qui amène éventuellement l'humanité à la pornographie, à des films, des X-rated films, pour essayer de faire vibrer cette imagination-là. Mais il y a un problème, c'est qu'on paye le prix. Parce qu'un homme qui fait trop vibrer son imagination va toujours se culpabiliser de le faire. Ça, c'est comme le petit gars qui fume du pot. le petit gars qui fume du pot. Il a beau dire que c'est au bout, son pot, mais en arrière de lui, dans le fond du même, il y a une petite crotte. T'sais? Il y a une petite crotte. Il a beau chercher l'illumination avec le pot, mais il ne trouve pas l'illumination avec le pot. Ça mène pas l'illumination du pot. Donc, il y a toujours une petite crotte qui reste. Il y a toujours une petite tristesse. Alors, les gens qui investissent trop dans la sexualité, pour quelque raison que ce soit, vivent toujours une petite tristesse parce qu'ils ne sont pas capables de faire la connexion entre leur intelligence et leur sexualité. Donc, ils sont obligés de la vivre au niveau astral et automatiquement, ils ouvrent, s'ils vont très loin là-dedans, ils ouvrent des centres d'énergie dans l'astral qui se peuvent être très, très forts et éventuellement, leur vie n'a plus de sens si elle n'a pas de sexualité. Je comprends que la vie n'ait pas de sens chez un être humain s'il n'y a pas de sexualité, s'il devrait en avoir. Si un être humain considère qu'il devrait avoir une sexualité comme tout le monde, si un être humain considère que la sexualité c'est beau, ça fait partie de la vie, ainsi de suite, si ça lui est retenu cette sexualité-là par les forces en lui, c'est normal que l'être humain se rebelle contre cette situation, mais il faut déjà être conscient du mécanisme. Puis éventuellement, s'il se rebelle de cette situation, il décrochera tellement d'énergie qu'éventuellement, sa sexualité reviendra. Mais il y aura eu un changement au niveau de sa sexualité, au niveau de la psychologie de sa sexualité. Le problème avec la sexualité, c'est que les gens sont prisonniers psychologiquement de leur sexualité et il n'y a rien là. Mais il y a beaucoup là parce que justement, les gens sont prisonniers de ceci.
En dehors de la sexualité aberrante des artistes, il y a l'autre aspect, c'est la non-sexualité de ceux qu'on dit élevés dans la spiritualité, atteints dans de plus hauts dimensions.
Bon, c'est la même chose, c'est la situation totalement opposée. Il y a des gens qui ne vivent plus de sexualité parce qu'ils ont gravi, ils ont vécu des expériences astrales où l'énergie sexuelle n'est pas l'énergie de fond. Donc, ils sont sur des plans supérieurs et au lieu d'être nourris sexuellement, ils sont nourris par la sexualité. Autrement dit, la sexualité, c'est... par la spiritualité. La sexualité, c'est l'opposé de la spiritualité. C'est la polarité. Alors, si tu as bien du sexe, tu peux pas être bien spirituel. Si tu es bien spirituel, tu peux pas avoir bien du sexe. Puis la situation ultime... c'est d'avoir bien du sexe, puis pas être spirituel pantoute. Ou être bien spirituel, puis pas avoir de sexe pantoute. Ou pas avoir les deux, ou avoir les deux en même temps, mais transmuter. Et c'est la dernière partie de ce que je dis qui compte. Un jour, la sexualité de l'homme doit être transmutée, la spiritualité de l'homme transmutée. Quand la sexualité et la spiritualité seront transmutées, l'homme aura une spiritualité normale, c'est-à-dire qu'il sera intelligent, puis il aura une sexualité normale, c'est-à-dire qu'il aura une sexualité consciente. Automatiquement, dans l'homme nouveau, il y aura transmutation de son sens sexuel, comme il y aura transmutation de son corps astral, pour qu'il puisse vivre l'énergie cosmique au niveau des plans supérieurs, mais au-delà de l'astral, et vivre cette énergie-là au niveau de sa sexualité, mais au-delà de sa psychologie antérieure. Il faut qu'il y ait transmutation. Tant qu'il n'y aura pas de transmutation, l'homme sera soit très sexuel, ou il sera soit très spirituel, donc dans les deux cas, il manquera de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est qui manquera? Ce sera l'équilibre.
Avant cette transmutation, il y a quand même, depuis les époques passées, une évolution. Autrefois, la sexualité était extrêmement taboue. Avec la libération des mœurs, dit-on, et l'éducation sexuelle qui se fait maintenant dans les écoles, ou qui devrait se faire dans les écoles, l'être humain est donc de plus en plus conscient de cette énergie, de ses valeurs en sexualité. Comment, Bernard de Montréal, voyez-vous que doit prendre cette fonction de l'éducation de la sexualité?
Ce qui se passe au niveau de l'éducation dans le domaine de la sexualité aujourd'hui, ça fait partie de l'évolution psychologique de l'homme, ça fait partie de l'évolution psychologique de l'humanité. Il vient à un certain point, le gouvernement a réalisé qu'il y avait des lacunes dans l'éducation sexuelle. Le gouvernement a réalisé qu'il y a des parents qui ne sont pas capables de parler de sexualité à leurs enfants. Ils sont gelés. Il y a des mères qui sont trop gênées, il y a des pères qui sont trop gênés, ça se parle pas. Donc, le gouvernement était obligé de commencer des programmes d'éducation sexuelle pour les enfants. Mais ça, c'est une situation est conditionnelle. Elle existe, cette situation-là, parce que les parents n'ont pas pris leur job en main. Si les parents avaient pris leur job en main, puis quand je parle des parents, je parle universellement parlant, si les parents prenaient ce travail d'éducation en main pour leurs enfants, les enfants n'auraient pas à étudier la sexualité à l'école et à subir possiblement des divagations dans l'approche sexuelle. Parce que c'est évident que si le gouvernement fait des efforts concrets, sérieux, pour éduquer les masses au niveau sexuel, c'est évident que les individus dans ces écoles-là ou dans ces organismes-là qui vont enseigner la sexualité, ils ont différents points de vue. Donc, ça peut créer des problèmes parce que il y a des points de vue qui vont convenir à l'individu, mais qui conviendront pas aux parents. Et les enfants sont beaucoup plus près des parents qu'ils ne peuvent jamais l'être des individus qui, avec bonne intention, à l'école, essaient d'enseigner la sexualité. Donc, l'éducation sexuelle dans les écoles, c'est un moindre bien. C'est un moindre bien pour un plus grand bien. Mais c'est expérimental. Et ça ne produira jamais les fruits que veulent sérieusement les gouvernements que ça produise. Parce qu'il y a trop d'éléments dans la sexualité, dans le caractère de l'enfant, sa capacité d'absorber le matériel sexuel, qui relèvent d'une configuration psychologique qui naît d'une émotivité quelconque, qui peut être bien mesurée en relation avec son père ou en relation avec sa mère. Qu'un professeur à l'école, avec les meilleures intentions au monde, avec tous les doctorats au monde, il y a des gars qui enseignent la sexualité à l'école, qui ont des doctorats en sexualité, puis eux autres sont totalement sans sexualité, ou ça marche croche. Leur sexualité, ils ne la vivent pas comme ils voudraient la vivre, mais ils sont capables de bien l'enseigner, parce que l'esprit est au-dessus des problèmes psychologiques de l'homme. Donc, il y a des gens qui sont capables de bien enseigner la sexualité, mais ils ne sont pas capables de la vivre, et ça crée une tension chez eux, ainsi de suite. Donc, toute l'éducation de la sexualité en souffre.
Est-ce qu'on pourrait faire une distinction entre la génitalité et la sexualité, la génitalité étant le phénomène de reproduction, en dehors de toute émotionnalité, de toute psychologie humaine, c'est un mécanisme biologique qu'on pourrait expliquer, et la sexualité qui met en cause justement...
La sexualité, c'est l'aspect psychologique de la génitalité. Et la génitalité, c'est le produit brut de la force, de l'énergie chez l'homme. Et il faut qu'il y ait une synthèse des deux. Faut qu'un parent puisse expliquer la génitalité naissante chez un enfant. Mais ça, il prend une certaine psychologie. Donc, il faut qu'il ait une certaine conscience, une certaine compréhension de sa propre psychologie. Sans ça, cet enfant-là va passer à côté, puis il va être obligé d'aller à l'école ou dans le cours de l'école aller le chercher. Faut qu'il y ait une synthèse entre la génitalité, c'est biologique, la sexualité, c'est psychologique. Il faut que les deux viennent ensemble. Quand les deux viendront ensemble, les gens vivront bien cette énergie-là qu'on appelle l'énergie sexuelle.
Pourquoi est-elle différente chez l'homme et chez la femme?
Elle est différente chez l'homme et chez la femme parce que l'homme a une génitalité qui lui est imposée de l'intérieur, tandis que la femme a une génitalité qui lui est imposée de l'homme. Donc, la sexualité chez la femme recouvre des éléments qui souvent sont perturbés dans le rapport entre l'homme et la femme. Il y a des hommes qui sont tellement inconscients dans leur sexualité que la femme en souffre. Ils n'ont pas la délicatesse qu'ils se devraient envers la femme. Et il y a des femmes, à cause pour toutes sortes de raisons, sont gênées, ils ont peur de faire faucher leur mari, ou quelque raison que ce soit. Il y en a des milliards de raisons. Il y a des femmes qui subissent ça pendant des années de temps. Et une femme qui subit la sexualité d'un homme pendant des années de temps, éventuellement, elle perd le goût à la sexualité. Donc, elle n'a plus le plaisir de sa sexualité. Puis, si elle a une chance de s'en passer, elle s'en passerait, sa sexualité. Ou si elle a une chance d'aller la chercher dans un autre contexte où elle le vit d'une façon plus harmonieuse, elle le fera. La femme est abusée dans sa sexualité parce que les hommes sont très, très génitales dans la sexualité. La femme est beaucoup plus psychologique dans sa sexualité que l'homme.
Vous avez parlé qu'on n'en aura plus le goût. On dirait que la sexualité va de pair avec un appétit sexuel, et on parle souvent de l'appétit sexuel. Comment développer son appétit sexuel?
On n'a pas développé l'appétit sexuel. L'appétit sexuel est toujours là, seulement qu'il est couvert par des conditions qui l'empêchent de le faire vibrer. Bon, je vous donne un exemple bien ridicule, là. Moi, je rencontre beaucoup de gens dans ma vie, puis des fois, j'ai des femmes qui me disent, « Ah, mon mari, dernièrement, il est beau. Il s'est mis une cravate, il est propre, il a un beau saut, il est donc beau. Il trouve beau. Hein? » Alors, la femme, elle, c'est important pour la femme que son homme, que son mari, que son ami soit beau. Nous autres, les hommes, on veut toujours que nos femmes soient belles. Mais on réalise pas que la femme aussi veut que son mari soit beau. Donc, l'appétit sexuel chez les êtres, il n'est pas rendu à son plein éclat parce que les êtres ne sont pas suffisamment conscients de leur personnalité, ne sont pas suffisamment conscients des lois d'impression de leur personnalité. Donc, s'ils ne sont pas conscients de ces lois-là, automatiquement, l'appétit diminue. L'appétit diminue. Un gars qui arrive de travailler le soir à 5 heures, qui trouve sa femme en bigourdi gros de même, comme il est parti le matin, c'est évident qu'il va penser à sa secrétaire. Puis ça va des deux côtés. Mais s'il arrive à la maison le soir, puis sa femme elle a une belle petite robe, puis elle est cute, puis elle fait son linge, puis elle est cute, elle est ce qu'il était quand ils sont rencontrés. Quand on se rencontre, quand un homme rencontre une femme, puis une femme rencontre un homme, on se met toujours sur notre 36. Si on n'a pas une paire de pantalons, laisse-nous dire qu'on y va chez une, bon, ça va s'en chercher une vite. T'sais? En tout cas, c'est le même de 20 ans aujourd'hui, je ne sais plus comment c'est, là, des choses. Hein? Mais on perd, on dirait qu'on s'habitue à notre mari, puis on s'habitue à notre femme, puis on s'habitue, puis on s'habitue. Puis éventuellement, quand tu t'habitues trop, ben tu perds. Tu perds ça.
D'où vient que l'appétit, pour certains.
Là, je veux finir ça, là, parce que il y a une petite affaire. L'appétit sexuel fait partie de la pulsation que crée dans l'homme l'énergie du double. Autrement dit, ta femme peut être bien belle aussi, ton mari peut être bien beau, puis tu peux ne pas en avoir d'appétit sexuel. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Il faut que l'homme sache que s'il n'en a pas, il y a une raison pour ça. Il faut que lui le comprenne. Là, je vous dis quelque chose. C'est beau parler, on va dire. Il y a des gens qui vont dire, oh, c'est bien beau parler. Mais quand tu le vis, c'est pas facile. Moi, j'ai un couple qui est de séminaristes qui sont venus une journée. Dans le séminaire, le type, il venait juste de se marier, ça pas longtemps. Alors, ils ont eu des relations sexuelles, ça marchait, mais après ça, ça a coupé. Fait que le bonhomme était bien énervé, la bonne femme était bien frustrée, puis je leur ai dit, attends encore quelques mois, là, dans 6-7 mois, là, ça va se retasser. Ça, c'est parce que je savais là, que ça se retasserait dans leur cas. Il y en a que ça ne se retasse pas pour 2 ans puis 3 ans. Alors, il y a toujours des raisons. Tout revient à notre intelligence. Mais notre problème, c'est qu'on n'est pas dans notre intelligence. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la machine, on ne sait pas pourquoi. Donc, on ne sait pas quoi faire pour le changer. Donc, on subit cette condition-là, puis on peut la subir pendant des années de temps. Donc, on finit par une vie de couple qui est totalement abrutissante. Alors, quand on parle de sexualité, on peut pas parler de la sexualité, en tout cas, en ce qui me concerne, là, je peux pas parler de la sexualité simplement en fonction de la mémoire expérimentale de l'humanité passée. Quand je parle de sexualité, je suis obligé de parler de la sexualité en fonction de l'avenir. Et comme je parle à des êtres en fonction de l'évolution éventuelle de l'intelligence, à ce moment-là, je suis obligé d'établir l'évolution de la sexualité comme étant une évolution qui est progressivement parallèle avec l'évolution de l'intelligence. Autrement dit, il y a une partie de l'énergie sexuelle que l'on vit en tant qu'être inconscient qui est très, très conditionnée par notre corps astral. Et il y a une partie de l'énergie sexuelle qu'on vit quand on est inconscient qui est conditionnée par le double. Et quand on se conscientise, l'énergie sexuelle peut être totalement conditionnée par le double. C'est là que l'énergie sexuelle peut être ralentie, coupée ou diversifiée pour éventuellement retrouver son timbre dans un état de conscience différent.
Si on n'a rien l'appétit, si on a l'appétit, vous nous dites on a l'appétit de toute façon, mais au menu, d'où vient le fait qu'on ait un menu qui peut être très varié sur la Terre?
OK. L'énergie sexuelle qui passe dans le corps de l'homme, elle est contrôlée par le double au niveau de la peau. Autrement dit, au niveau de la peau, il y a une certaine énergie électromagnétique et c'est cette énergie-là qui contrôle la sexualité. La sexualité, elle est toujours vécue, reconnue par la conscience de l'homme au niveau de la peau et éventuellement, elle rentre dans la peau. Alors, il y a des êtres, quand je parle de la peau, là, je ne veux pas dire seulement la peau sur le plan physique. Je veux dire de l'esthétique de la peau, de l'esthétique de la forme. Parce que l'esprit, que l'homme s'en soit conscient ou non, l'esprit voit à travers les yeux de l'homme. Les yeux de l'homme, c'est comme des fenêtres. Alors, l'esprit voit à travers les yeux de l'homme, et ce qu'il voit lui convient ou non. Si l'homme, pour quelque raison que ce soit, fait interférence à ce que voit l'esprit, et se sert simplement de sa mémoire ou des conditions extérieures, que ce soit, bon, je vous donne un exemple, parce que c'est tellement complexe la sexualité, on va prendre par exemple un mariage de convenance, des liaisons de convenance, ou un homme qui rencontre une femme, qui l'aime, qui dit « je t'aime », puis après ça, il l'aime plus, puis après ça, mais il veut pas dire « je l'aime plus » parce qu'il veut pas lui faire de peine, faut qu'il continue avec elle, c'est ça, pour cette raison, là. L'esprit, lui, qui voit à travers les yeux, communique son énergie au corps matériel. Donc, s'il n'y a pas de relation entre l'esprit et le corps matériel, il peut quelque part dans le temps y avoir une disconnexion au niveau de la sexualité, parce que la mémoire, les formes, l'imagination ne sera plus suffisante. C'est pour ça que souvent, multiples personnes, surtout les hommes, vont aller à l'utilisation de méthodes pornographiques, visuelles, auditives, pour activer leur sexualité. Parce qu'ils n'ont plus suffisamment l'imagination, sont obligés de s'en mettre encore plus d'imagination pour maintenir leur train de vie sexuelle. Mais ça, c'est joué avec le temps. La sexualité normale, quand je parle de sexualité normale, je veux dire de la sexualité qui est le produit de l'activité de l'énergie domestique à travers le corps humain, cette sexualité-là n'a pas besoin d'artifice. Elle est naturelle. As-tu déjà vu un chat avec des bonnes nylons? Tu sais? je veux pas dire que c'est pas beau des bonnes nylons, c'est pas ça que je veux dire. Alors, la sexualité, elle est naturelle, mais elle devient très, très naturelle, c'est-à-dire très équilibrée au niveau électrostatique dans le corps humain, quand l'esprit est présent dans l'homme. S'il n'est pas présent l'esprit dans l'homme à cause de l'ego, à ce moment-là, l'homme vivra sexualité, mais selon les conditions de l'ego, en vertu de son imagination, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il vivra sa sexualité. Et si l'esprit, pour une raison ou une autre, veut retrancher la sexualité, moi je connais un couple aujourd'hui, un très beau couple. Très beau couple. Et dans ce couple-là, la sexualité commence à être retranchée. Et ce couple-là est très conscient de ce que je veux dire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le couple, étant conscient de ceci, ne souffre pas du retranchement de la sexualité. Puis quand je dis que c'est un beau couple, c'est un beau couple. Tu sais, du monde de la télévision, du beau monde. Tu sais, il y en a du beau monde qui sont coupés avec 20 couteaux, là, bon, eux autres. Alors, il n'y a pas de raison que leur sexualité ne fonctionne pas. À ce moment-là, elle est retenue par le double, mais pour une raison. Soit pour le changement d'état émotionnel de la femme, pour le développement d'une sécurité plus profonde chez la femme, et c'est toutes sortes de raisons. Alors, c'est très important. Moi, si on en disait, là, point blank, qu'est-ce que c'est la condition pour qu'un homme et une femme vivent bien une sexualité? C'est que quand ils se rencontrent, qu'ils étudient très bien leur corps, et qu'ils comprennent très bien leur esprit. Je vais vous conter une histoire personnelle. Quand j'étais petit gars, j'étais à l'université aux États-Unis. Puis j'avais rencontré une petite fille, qui était fine, elle était belle, elle était cute, elle était belle et intelligente. Mais elle avait des gros genoux. Elle avait fait de la culture physique en Pologne, là, le Parti communiste. En tout cas, elle avait des genoux. Ses genoux me fatiguaient. Elle avait un bel esprit, elle avait un beau corps, mais chaque fois que je voyais, surtout quand elle enseignait, parce qu'elle enseignait à l'université, j'ai regardé les genoux, elle portait des petits jobs courts, elle avait des petits jobs courts dans ce temps-là, puis je disais, elle n'a-tu des maudits du genou? Mais sais-tu, c'est à cause des genoux que je ne l'ai pas mariée. Puis si je l'avais mariée à cause de ces genoux-là, j'aurais eu des tensions toute ma vie. Puis ça, on ne le réalise pas. Donc, on rencontre des femmes ou des hommes, puis il y a quelque chose de croche, tu sais, il y a quelque chose de croche. Peut-être pour toi, si l'œil se fout de l'autre, ça te dérange pas. Mais peut-être que pour un autre, l'œil se fout de l'autre, ça le dérange. Chaque cochon trouve sa guenille dans la vie, heureusement. Tu sais? Mais il faut toujours voir le problème de notre relation avec un être humain en fonction de nous-mêmes, de nos besoins psychiques, de nos besoins vibratoires, de nos besoins esthétiques de sensibilité. On a une sensibilité. Alors, quand les gens rencontrent des gens, d'abord, les gens, moi j'ai toujours dit que les hommes s'aiment trop vite. Je parle pas des hommes, là. Je parle des gens. Les gens s'aiment trop vite. Autrement dit, on devrait être intelligent avant d'être en amour. Bon, on est en amour avant d'être intelligent, fait qu'on paye le prix après. Un homme de 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Donc on tombe en amour parce qu'on a une astralité. On veut sécuriser nos émotions. Alors, notre intelligence, elle vient plus tard. Puis après ça, mais plus tard, mais quand on devient intelligent, puis là, si la situation ne convient pas, on est obligé de changer notre condition, parce que quand tu es intelligent, tu ne peux pas jouer de game. Quand tu n'es pas dans ton intelligence, tu peux jouer des games, tu peux souffrir de ta vie. Mais quand tu es intelligent, tu ne peux pas jouer de game. Ça va par là, puis ça va par là, parce que tu le sais. Alors, le problème de l'homme, c'est que l'homme tombe en amour avant d'être intelligent. Moi, j'ai une petite fille, là, puis là, elle est petite, là, à 10 ans. Puis elle est bien sensuelle, tu sais. Puis les bidonnes, puis tout ça, te parle de ça. Elle aime ça, tu sais. Bon, ça l'intéresse. Puis quand elle rencontre des petits chums, puis ils s'embrassent, papa. Puis je regarde des fois, puis je la laisse faire. Il se taponne, puis il se tapoche, puis tout ça. Ça fait partie de sa génitalité. Mais petit à petit, j'y fais comprendre que sa génitalité, c'est normal. Un jour, elle va la comprendre plus. Mais je fais toujours comprendre une chose. Si t'as un chum aujourd'hui, tu le perds, cause tes autres. Tu vas en avoir 10 demain. T'sais? Un de perdu, 10 de retrouvé. Puis ça, il comprend ça. Fait que quand elle revient de l'école, elle dit, je n'ai pas Dieu, je t'ai trouvé un autre. Je suis content. Fait qu'elle continue de même. Fait que rendu à 18, 19, 20 ans, 21 ans, elle va en trouver un autre, elle va le perdre, elle va en trouver un autre. Fait que là, elle va avoir le temps de rentrer dans son intelligence. Quand elle va être dans son intelligence, elle va avoir bien compris sa sexualité. Fait que là, sans s'en trouver un acte quelque part dans le monde, ben, elle va fixer avec, ça va être bien. Mais elle va avoir compris la relation entre son esprit et le corps de ce jeune homme-là qu'elle rencontre-là. Mais on n'a pas été éduqué. C'est inutile pour moi de dire, tout le monde le sait. On était très mal éduqué sexuellement, comme on était très éduqué à tous les niveaux, anyway. Fait que si on était mal éduqué à tous les niveaux, imagine-toi comment est-ce qu'on est au niveau de la cave. Pense-y pas. Il ne reste plus rien.
La question du rapport sexuel, je ne vous demanderai pas si avant d'arriver au genou, il y a d'autres attraits qui vous avaient amené des rapports sexuels, ou alors votre petite fille dedans, si vous allez attendre qu'elle ait l'intelligence pour avoir un premier rapport sexuel, et vous avez l'impression de nous les reculer comme dans le temps de notre éducation, qui laisse entendre que le rapport sexuel était le bout du bout, comme vous dites des fois. Alors, où situez-vous le rapport sexuel normal?
Le rapport sexuel normal, il est là où les corps vibrent. Il est là, le rapport sexuel normal. Seulement, si on n'est pas éduqué à le bien vivre, ce rapport sexuel-là, on peut en vivre des conséquences. Ça fait partie de l'éducation. Si ma petite fille a 18 ans, elle veut se taper un soir quelque part, mais à ce moment-là, faut que j'aie expliqué que c'est ce qui se passe si elle a un rapport sexuel ou des conséquences de ça. Faut qu'elle se protège, ta petite fille. Alors, le rapport sexuel, c'est pas dans le rapport sexuel, le problème, c'est l'inconséquent. Nous autres, on a mis toute l'emphase sur le rapport sexuel pour nos biens conséquences. Ou on a mis bien l'emphase sur les conséquences puis on n'a pas réalisé l'importance du rapport sexuel. Un va avec l'autre. Tu peux pas prendre deux enfants de 18 ans, des blondes les yeux bleus d'un tas de foin, puis t'imaginer qu'ils vont entendre des extraterrestres. Hein? Ce que je veux dire, c'est que pendant qu'ils sont dans le tas de foin, ils ont à vivre leur génitalité, mais ça dépend toujours de leur psychologie. Et la psychologie de l'enfant dépend de l'éducation des parents, et l'éducation des parents dépend de la conscience des parents, et ainsi de suite. C'est pour ça que le problème de sexualité, là j'en parle à vous à soir, je commence, parce que je peux en parler pendant des semaines de ça, c'est extraordinaire. On ne peut pas parler. Savez-vous qu'est-ce que c'est les gens qui parlent de sexualité à la télévision, puis les radios, puis tout ça? On ne peut pas parler de sexualité à court terme. C'est trop complexe, la sexualité. Il faut en parler, puis 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 en parler, jusqu'à temps là, qu'on ait tellement parlé que, évidemment, éventuellement, on commence à avoir un portrait. Il faut en parler, mais il ne faut pas avoir peur d'en parler. Si on a peur d'en parler, c'est pas bon. Et il ne faut pas être catégorique non plus quand on en parle. Il ne faut pas être catégorique. Moi, je parle de la sexualité vis-à-vis d'après mon intelligence. Mais les gens ont leur propre intelligence, ont leur propre expérience. Il n'y a pas personne pareil. La sexualité pour un infirme avec un infirme, c'est pas comme la sexualité avec une personne qui est normale. Mais elle peut être aussi belle, puis aussi intéressante, puis aussi intelligente que chez une personne normale. Donc, il faut en parler de la sexualité. Et il y a un point où la sexualité, en ce qui concerne son dénominateur commun, là, quand on rentre dans le problème de la sexualité au niveau psychologique, il faut en parler avec le couple, avec l'individu. Il y a un point, là, tu peux plus en parler universellement. Il y a un point, il faut que tu en parles avec le couple. Mais ça prend des écoles. Il devrait y avoir des écoles dans le monde, dans la province de Québec, où on se spécialise simplement dans le problème de la sexualité. Des écoles, rien de ça, qui n'enseignent pas d'autre chose que la sexualité. Et laissez-moi vous dire qu'il y aura du travail pour tout le monde. Mais ça prend des gens compétents. Je suis en train présentement de former une personne à ce que les gens appellent la sexologie. Elle est à Trois-Rivières. Puis éventuellement, quand je vais avoir le temps, je vais donner du matériel à sa sexualité. Mais au moins, là, elle a son intelligence pour comprendre la vibration de l'intelligence vis-à-vis le problème ou la problématique de la sexualité pour qu'elle puisse l'appliquer, son intelligence, à chaque qui viennent à elle. Tu ne peux pas généraliser la sexualité. C'est impossible. C'est impossible.
Il existe déjà des écoles de cuisine. Comment se fait-il que pour la sexualité, ce soit si compliqué, ou ce l'est peut-être autant que la cuisine?
Parce que, d'abord, pour être très bon enseignant, si vous voulez, pour bien parler de la sexualité, il faut bien la comprendre. Et je veux pas dire la bien comprendre au niveau expérientiel. Je veux dire la bien comprendre au niveau mental. Au niveau de l'intelligence. Ensuite, automatiquement, il se forme une synthèse entre le mental et l'expérience. Mais si on la comprend pas au niveau de l'intelligence, par notre esprit, automatiquement, on est obligé de la vivre expérimentalement et automatiquement, on en souffre parce que on va faire des mouvements dans la vie au niveau de notre sexualité qui font partie de notre évolution, qui font partie de notre conscience expérimentale et on peut en souffrir. Au lieu de la vivre, notre sexualité, avec autant d'intelligence qu'on vit de notre mental ou qu'on vit de notre émotion. C'est la même énergie, nous.
Alors, quelle est l'utilisation normale et sans mauvaise conséquence de la sexualité?
Il n'y en a pas d'utilisation normale ou sans mauvaise conséquence de la sexualité. Ça, c'est une force. La sexualité, c'est vital. Elle devrait être vécue vitalement. Autrement dit, elle devrait être vécue en dehors de la subjectivité de l'ego. Si elle est vécue en dehors de la subjectivité de l'ego, elle est ce que vous appelez normale et sans conséquence. Mais si elle n'est pas vécue en dehors de la subjectivité de l'ego, elle sera colorée par l'ego. Et automatiquement, il y aura des tabous, il y aura toutes sortes de conventions qui font partie de la mémoire de l'humanité. Donc, la sexualité deviendra un problème psychologique si ça s'adonne qu'elle n'est pas suffisamment canalisée en tant qu'énergie.
Est-ce que la morale et justement, la relation qu'on peut faire avec la sexualité normale, c'est-à-dire en dehors de l'ego, ce serait ça la morale?
Non. Non. La morale fait partie de l'ajustement psychologique de la sexualité vis-à-vis les mœurs sociaux qui cherchent à engendrer dans une masse collective quelconque une certaine droiture pour que la sexualité, sur le plan social, sur le plan culturel collectif, soit palatable, soit saine. Psychologiquement saine. Il y a des gens qui vivent leur sexualité, autrement dit, pour expliquer ce que je veux dire, là, il y a des gens qui vivent leur sexualité dans leur intimité, et cette sexualité-là, si elle était affichée dans le public, serait considérée comme amorale. Mais dans leur intimité, cette sexualité-là, elle est très vitale, elle est très créative, Donc, ces gens-là sont pas intéressés à la moralité dans leur sexualité. Si tu commences à mettre de la moralité dans ta sexualité, c'est comme mettre du vin dans ton eau. Tu perds la puissance de ton vin. Parce qu'automatiquement, subjectivement, tu vas colorer tes émotions vis-à-vis de la sexualité. Tu vas engendrer dans ton expérience sexuelle des pensées. Tu vas penser dans ta sexualité. Et si tu penses dans ta sexualité, tu fais deux mouvements à la fois. Tu fais un mouvement du mental inférieur et tu fais un mouvement du plan sexuel. Et c'est pas normal. L'énergie est supposée d'être là. Elle n'est pas supposée d'être là, puis là, en même temps, elle est supposée d'être là. Elle doit descendre, cette énergie-là, et s'éteindre.
Pour les gens qui n'écoutent que par la cassette, là, quand vous disiez d'être là et d'être là, c'est-à-dire d'être en haut ou d'être en bas, mais c'est-à-dire de passer de haut en bas.
C'est ça. Il faut que ça parte.
Maintenant, si on parlait des désordres sexuels ou des perversions sexuelles.
Les perversions sexuelles sont le produit du débalancement du corps astral de l'homme. Le corps astral, vous connaissez ça, un gyroscope. Ah, un gyroscope, c'est très, très, très délicat. Ça fonctionne sur un axe. Alors, le corps astral, c'est la même chose. Il y a des hommes qui ont un corps astral totalement débalancé. Et ce débalancement-là crée des désordres psychiques de n'importe quel ordre. Mais dans le cas de la perversion sexuelle, c'est un débalancement du corps astral, c'est une suractivité de l'imagination. Et l'imagination, ça vient d'où? Ça vient du plan astral. Donc, c'est lié à la mémoire. C'est lié aux fantasmes, aux fantômes, c'est lié à des communications, c'est lié à une imagerie. Donc, la sexualité est totalement colorée. Et ces gens-là, éventuellement, vivent une possession sexuelle. Il y a chez beaucoup d'hommes une possession, on parle de la possession sur le plan mental, il y a de la possession sur le plan sexuel. Le viol, c'est l'extrême pérégrination de ce mouvement-là. Le viol, c'est la possession d'un être humain par une entité dans l'astral contre un être humain sur le plan matériel. Le viol, c'est totalement astral. C'est tellement fort. Vous avez d'autres perversions comme ça, le type qui est kleptomane. Il s'en va chez Ethan, puis il faut qu'il prenne quelque chose sur le comptoir, il n'est pas capable. C'est plus fort que lui, puis il soigne dans sa poche. C'est encore la puissance affective de l'astral sur l'homme. Et ça peut déranger des vies énormément.
Est-ce que l'homosexualité serait considérée comme une perversion?
L'homosexualité peut devenir perverse, parce que l'homosexuel, c'est un être qui est très sensible. Mais l'homosexualité, dans son état pur, n'est pas perverse. L'homosexualité, c'est l'expérience à travers de l'ego, de l'esprit. L'homosexualité relève d'un remaniement de l'énergie astrale par l'esprit sans le contrôle de l'ego, donc automatiquement ça fait souffrir l'ego s'il ne la comprend pas. La perversion, elle existe autant dans le monde hétérosexuel qu'elle existe dans le monde homosexuel, mais il y a beaucoup plus de chances que l'homosexuel vive la perversion parce que déjà l'homosexuel est beaucoup plus sensible astralement que l'homme hétérosexuel normal, à cause de la proximité d'influence de son double sur son corps astral, et aussi souvent à cause des ramifications de la mémoire karmique de l'individu.
Voulez-vous dire que quelqu'un qui a beaucoup d'imagination a beaucoup plus de chances de devenir pervers?
Je dis que quelqu'un qui a beaucoup d'imagination peut pervertir sa vie à un certain niveau d'action si son imagination n'est pas balancée.
Voulez-vous dire que l'homosexuel, comme son double, est plus près de l'astral que l'hétérosexuel, se trouve à être plus proche d'une fusion avec son double?
L'homosexuel souffre plus de son double que l'hétérosexuel. Parce qu'il est plus près de l'énergie du double, mais il n'est pas capable de la comprendre. Donc, il n'est pas capable de la vivre à travers son corps astral comme l'être hétérosexuel normal. C'est comme si la présence, d'ailleurs la sensibilité, c'est ça, la grande sensibilité de l'homosexuel, c'est la présence, cette présence vibratoire en lui qu'il ne peut pas contrôler, il peut rien faire, ça fait partie de lui. Donc, pour lui, c'est très difficile de contrôler cette énergie-là. Et c'est pourquoi c'est très important pour l'être homosexuel de développer une psychologie de l'homosexualité. Il n'y a pas de psychologie de l'homosexualité. Il y a des méthodes, il y a des théories homosexuelles ou sur la psychologie de l'homosexuel. Mais il n'y a pas de science de la psychologie de l'homosexualité. L'homosexuel a besoin de comprendre parfaitement son intelligence pour bien comprendre son état astral, pour bien fonctionner dans la matière et ne pas vivre des rejets émotifs à travers son imagination qui n'est pas supporté par une humanité ambiante qui pourrait lui dire « bon, mais ça, ce que tu fais, c'est normal » ou « ça, ce que tu fais, c'est anormal ». Il n'y a pas de point de référence. Donc, il est obligé de subir individuellement, intérieurement, solitairement, la puissance vibratoire de son double à travers son corps astral et automatiquement, il devient un être tant qu'il n'est pas arrivé à soit accepter, si vous voulez, mais même ça, c'est passé. Mais il devient un être qui n'est pas heureux. Il n'est pas parfaitement heureux dans sa peau.
Le transsexué.
Le transsexué, c'est une autre situation. La transsexualité, c'est du karma. Autrement dit, l'homme, à cause de la mémoire de l'âme, quand il vit une vie comme dans le passé, par exemple, où les hommes étaient extrêmement barbares, où les hommes ont commis des délits sexuels écœurants dans le monde, les Huns, à tous les niveaux. Alors, il y a eu des délits sexuels tellement grands dans le passé, ces délits sexuels-là marquent les mémoires de l'âme, dont marquent éventuellement l'ego quand il incarne. Alors, les transsexuels vivent le karma de leur sexualité dans le passé, et souvent, ils sont obligés de le vivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans la transfiction de leur sexualité dans le corps matériel. Ça, c'est karmique. Mais s'ils comprennent leur état, s'ils entrent dans l'intelligence de leur sexualité, ils pourront éventuellement se libérer du traumatisme psychologique vis-à-vis leur matière et réaliser que leur matière n'est simplement qu'un support expérimental pour l'éventuelle destruction de cette mémoire d'âme-là et qui éventuellement leur donnera la paix d'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne souffriront plus de leur transsexualité.
Pouvez-vous nous donner concrètement une raison d'expérience du passé qui aurait amené la personne à vivre une transsexualité ici?
Une personne dans le passé, par exemple, qui aurait été un soldat, par exemple, qui serait rentré dans un village et qui aurait coupé, par exemple, le pénis d'un enfant. Automatiquement, pour le plaisir de la chose, avec un sabre, ainsi de suite, automatiquement vivrait cette mémoire-là. Les eunuques en Chine. Alors, au départ, on vit au 20e siècle, on vit dans une société qui est suffisamment civilisée. Il y a des choses aujourd'hui qui ne se font plus, presque. Mais retourner 100 ans en arrière, 300 ans, 400 ans, 500 ans, ce qui se passait au Moyen-Âge, ce qui se passait dans les invasions entre les nations, c'était extraordinaire. Regardez le phénomène des Indiens, les Incas, les Aztèques, déchirer le cœur, le mettre sur une table, tu sais, toute la patente. C'est inouï. Alors, l'homme, aujourd'hui, vit ça. Et on le revit au niveau incarnationnel, et automatiquement, si on ne comprend pas, bien, c'est évident qu'on en souffre psychologiquement d'une façon très profonde. Mais il y a toujours plus de lumière qui vient vers l'homme pour lui faire comprendre son expérience, pour qu'il en souffre de moins en moins et qu'il en arrive éventuellement à ne plus subir psychologiquement son expérience, simplement la vivre d'une façon neutre.
La prostitution, ceux qui se donnent à la prostitution comme un métier tout à fait naturel?
La prostitution, c'est très compliqué. La prostitution relève de plusieurs facteurs. D'abord, elle relève de... Le plus grand facteur dont elle relève, c'est un facteur économique. La prostitution, elle est rampante où il y a de la pauvreté. Il y a évidemment de la prostitution de grand luxe, ainsi de suite, mais je parle de la prostitution en général, elle relève d'un grand facteur de pauvreté. Il y a des femmes qui ont des bons corps, qui ont une certaine liberté psychologique, qui ont été entraînées souvent dans leur expérience, et qui sont suffisamment libres psychologiquement pour aller vers cette expérience-là. Mais elles en souffrent parce qu'elles ne la comprennent pas. Il y a des femmes qui vivent la prostitution, qui en souffrent toute leur vie. Il y a des femmes qui vivent la prostitution pendant 10 ans parce qu'ils veulent se faire un mongo pour se retirer. Il y a des femmes. Chaque femme qui vit la prostitution a ses raisons personnelles. Et souvent, ce sont des raisons très intelligentes. Et ce qui est remarquable chez les prostituées, je parle encore généralement, c'est qu'il y a, ces femmes ont beaucoup de psychologie. Beaucoup de psychologie. C'est smart une prostituée. C'est vite. Et c'est justement cet outil-là qui leur permet de faire leur métier. Mais on ne peut pas prendre en jugement les hommes. On doit soit donner de l'instruction aux hommes, on doit soit éduquer les hommes ou enseigner les hommes ou changer les conditions sociales qui font que les hommes, à cause de leur insécurité, de leur immaturité, de leur manque de centricité, sont amenés par des forces qui sont plus grandes qu'elles. Alors, on n'a pas jugé la prostituée. Moi, j'ai rencontré une prostituée à Montréal, dans le bas de la ville, c'est la rue de la Montagne. C'est une femme qui était très sensible. C'est une femme qui même allait en astral. Elle était très, très sensible. Mais elle faisait ça parce que ça lui donnait de l'argent suffisamment rapidement pour vivre sa vie comme elle voulait. Autrement dit, l'être humain a le droit de choisir la vie qu'il veut. Donc, c'est pas à l'être humain de juger l'être humain. Ça devient l'être humain peut être mis en jugement dans une situation de tribunal lorsqu'il va contre le bien de la société, lorsqu'il va contre le bien de l'homme. Mais je sais très bien que les prostituées font beaucoup pour rééquilibrer dans le monde l'énergie sexuelle qui n'est pas vécue par certains hommes à cause de toutes sortes de raisons. Soit qu'ils sont très laids, ou qu'ils sont infirmes, ou qu'ils veulent s'amuser simplement au niveau de leur imagination. Alors, ces femmes-là se prêtent à leurs désirs, donc balancent leurs vibrations, donc empêchent que ces hommes-là vivent éventuellement peut-être une possession sexuelle qui les amènerait à un viol et qui les amènerait à détruire un corps physique.
Où se situe la pornographie?
La pornographie, c'est l'excès de sensibilité en relation avec un excès d'imagination chez des gens qui souffrent énormément de leur insécurité. Tous les gens qui sont pornographiques sont des gens qui souffrent d'une grande insécurité psychologique et qui cherchent à retrouver dans l'image un support temporaire qui leur permet de solitairement d'exécuter leur fantasme ou leur expérience sexuelle qu'ils ne peuvent pas faire naturellement ou normalement ou selon les voies que l'on préconise dans le social. Ce sont des gens qui ont une grande insécurité. Il y a une grande insécurité de fond là, chez le pornographe.
Seriez-vous d'accord que ce soit légalisé, comme la prostitution?
Ça, c'est très intéressant, cette question-là. On ne peut pas légaliser, ça c'est bien intéressant cette question. On ne peut pas, bon, là je vais vous parler en comme des volets, parce que je peux pas le dire tout d'un coup. D'abord, on ne peut pas légaliser des choses, des actions qui ne sont pas convenables, c'est-à-dire qui ne sont pas esthétiquement reconnaissables par le collectif social. Autrement dit, si la sensibilité d'une nation est touchée par une action quelconque qui ternit leur sensibilité pour des raisons de profit, d'argent, parce qu'il y a de la grosse finance là-dedans, la grosse argent, à ce moment-là, on met le bien social, ou le bien-être social, ou l'esthétique sociale, la convenance sociale, sous le joug de l'empire de certaines personnes. Et ça, je ne suis pas en faveur de ça. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que c'est très important que les politiciens, les gens qui sont dans la politique, qui sont derrière les lois, que ces gens-là soient très, très sensibles à la grande masse qui, en général, est très sensible. Si vous passez dans une masse québécoise, par exemple, là, et que vous demanderiez à tout le monde, pas seulement les petits jeunes à la rue Sainte-Catherine à 2h du matin, mais si vous demanderiez aux petits jeunes à la rue Sainte-Catherine du matin, mais aux sœurs, puis aux prêtres, puis aux mères de famille, puis aux gens, si vous aviez réellement... Là...
Alors, j'aimerais savoir, Bernard de Montréal, lorsqu'on va aborder le phénomène de la sexualité, peut-être de vous demander de faire une différence entre le mot « homme » et le mot « humain ». Pour qu'on se situe, quand on dit homme, il s'agit de l'homme mâle et de la femme femelle, et que l'humain comprend les deux. Qu'est-ce qui, dans le fond, est dans la nature de l'humain? Est-ce la bisexualité, l'androgyna, ou cette division? Et si c'est cette division, qu'est-ce que ça signifie?
La nature de l'homme est universelle. Ce qui permet à l'être matériel d'être constitué en une partie femelle et une partie mâle relève des lois de la polarité. Les lois de la polarité sont les lois universelles. Ce sont des lois qui permettent dans le cosmos que des êtres qui sont sujets aux lois matérielles de s'interpénétrer. Alors, l'interpénétration, c'est partie de l'exploitation dans le domaine matériel du pouvoir de l'énergie négative et de l'énergie positive. Alors, l'homme représente, sur le plan matériel, l'homme, le mâle, représente l'énergie positive, la femme représente l'énergie négative, et la contradistinction que l'on fait sur le plan psychologique est une contradistinction qui est simplement d'ordre sensoriel. Sur le plan de l'esprit, la polarité n'existe pas. Sur le plan de l'esprit, sur le plan de la lumière, la polarité n'existe pas parce que dans la lumière, la constatation infinie de l'énergie de l'esprit est toujours parfaite. C'est-à-dire que l'esprit, dans sa manifestation, sur un plan ou sur un autre, en dehors des sphères de la création, est absolu. Lorsque l'esprit se manifeste sur les plans inférieurs de la création et qu'il transforme les formes éternelles de sa conscience dans des formes évolutives, à ce moment-là, il peut se servir de la polarité, il peut se servir de l'aspect mâle ou de l'aspect femelle, afin de recomposer la forme à l'infinité. S'il a été donné à l'homme, quand je parle de l'homme universellement parlant, s'il a été donné à l'homme d'être constitué en tant que partie mâle et partie femelle, c'est pour permettre sur la Terre, sur le plan matériel, qu'il y eut une évolution animale. Alors, là où il y a évolution animale, c'est-à-dire que là où il y a évolution sans concours direct de l'esprit au niveau de l'intelligence, il devint essentiel que l'homme vécût l'expérience de l'esprit à travers une configuration dualiste, à travers une situation polarisée, afin que les aspects inférieurs soient élevés par les aspects supérieurs. Les aspects inférieurs étant les aspects négatifs, par les aspects supérieurs, pour que les aspects, éventuellement, puissent être raccordés dans l'esprit lorsque l'homme ne sera plus constitué sur le plan matériel en tant que forme physique, mais plutôt forme éthérielle. Lorsque l'homme sera éthériel, lorsque l'homme sera rendu au niveau de son évolution, au stade de l'homme-esprit, à ce moment-là, il pourra laisser de côté sa forme matérielle et reconstituer une autre forme, créer une autre forme qui sera d'un autre domaine, mais qui n'emploiera plus la polarité pour exprimer à l'infini les formes nécessaires à l'évolution. Il créera instantanément les systèmes de vie dont il aura besoin, et ces systèmes de vie seront d'un autre ordre, mais ne seront plus humains. Nous tomberons à ce moment-là dans l'âge du cloning.
La mode unisexe présentement, est-ce que c'est pas finalement un retour vers l'androgyna, vers l'unité dans les deux sexes?
La mode unisexe aujourd'hui relève du raffinement psychologique des sexes. Autrement dit, les sexes, d'une façon très très inconsciente, parce que l'homme est un être encore très inconscient, il ne connaît pas les lois universelles. L'homme et la femme aujourd'hui sont en train de se réunir au niveau de l'esprit, mais en passant par une expérience psychologique que nous appelons unisexe. Et cette expérience psychologique, qui est d'ordre social et historique, leur permet de petit à petit, d'une façon subliminale, de détruire les barrières, les obstacles qui ont créé dans la pensée une sorte de dualité entre les sexes, entre le mâle et la femelle, et qui ont empêché la femme d'évoluer. Donc aujourd'hui, la femme peut évoluer plus, et l'homme peut s'assagir vis-à-vis son rôle, vis-à-vis le rôle qu'il a envers la femme, et automatiquement, la psychologie de l'unisexe, si nous la regardons d'un point de vue cosmique, non pas simplement d'un point de vue social ou économique ou historique, devient une des grandes poussées dans le monde du phénomène d'égalisation entre les matières mâles et les matières femelles pour préparer l'homme petit à petit à se désintoxiquer, à se libérer des formes qui ont servi à l'ancienne évolution et à le préparer éventuellement à entrer en contact avec d'autres civilisations qui, elles, sont unisexes dans beaucoup de leurs aspects.
On entend beaucoup parler en Orient de la montée de la Kundalini, l'utilisation d'énergie des différents chakras, et on dit que chakra signifie en français roue, et que c'est par le mouvement des roues qu'on produit de l'énergie électrique dans les dynamos, dans les centrales électriques. Alors, cette montée de la Kundalini, qui est représentée bien souvent comme deux serpents entrelacés, comme dans le caducée d'Hermès, ces deux serpents qui préfigurent peut-être aussi le fameux serpent tentateur au paradis originel, la femme qui succomba, la femme qui lui pile sur la tête, mais le serpent se venge en retour, étant donné que la femme qui aura dominé le Kundalini de l'être humain au cours de l'existence de l'humanité, ce serpent se venge en retour et lui mord le talon, comme on dit dans la Bible. Alors, toute cette histoire à la fois orientale et occidentale nous ramène à un élément de base, c'est qu'il y a une énergie à aller chercher à la base. De quelle énergie s'agit-il?
Il y a une énergie cosmique dans la colonne de l'homme. Dans la colonne vertébrale de l'homme, il y a des centres d'énergie. Ces centres d'énergie sont les centres récepteurs de cette énergie cosmique.
De l'humain?
De l'homme, de l'homme et de la femme, les deux. Et le Kundalini, il faut comprendre une chose, c'est que l'Orient a été une des régions de la Terre qui a été les plus favorisées par ce que nous pouvons appeler l'expérience astrale. Et dans l'expérience astrale, les Orientaux ont découvert la Kundalini, ils ont découvert la nature voilée du corps humain, ils ont découvert la mécanicité énergétique de la colonne vertébrale, et ils ont interprété, selon les lois de l'intelligence astrale, le principe de cette énergie. Donc, ils ont compris que cette énergie était cosmique et que cette énergie fonctionnait en termes de roues qu'elle générait. Mais ce qu'ils ne savaient pas, les Orientaux, c'est que cette énergie ne doit pas être manipulée par l'homme. Si le Kundalini est manipulé par l'homme, il est manipulé par l'ego. S'il est manipulé par l'ego, il est manipulé psychologiquement. S'il est manipulé psychologiquement, il y a de l'émotion dans le mental. Et s'il y a de l'émotion dans le mental, il y a du désir, c'est-à-dire que l'homme veut parvenir à un certain état d'esprit qui lui permet éventuellement d'avoir un certain pouvoir à quelque niveau que ce soit. Ceci est très dangereux parce que l'homme aujourd'hui n'est pas dans l'intelligence, il est simplement dans l'intellect. Et si un homme n'est pas dans l'intelligence, comment peut-il connaître, comprendre les lois cosmiques? Pour comprendre les lois cosmiques, il faut être dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il faut avoir un rapport vibratoire de synchronisation entre ses énergies et son mental. Donc, il faut que l'homme ait une conscience mentale supérieure qui reçoit l'information de cette énergie et qui lui permette de comprendre le rapport entre l'énergie et ses centres, ses chakras. Mais les Orientaux et aussi les Occidentaux aujourd'hui, de plus en plus, se sont intéressés au Kundalini et c'est très dangereux parce que ils peuvent très facilement libérer des énergies et astraliser leurs centres. Donc, leurs centres tellement affectés par des énergies qui proviennent d'univers parallèles et qui sont contrôlées par des êtres qui sont anti-hommes, qu'éventuellement ces êtres peuvent atteindre l'état de folie. Donc, travailler avec le Kundalini à partir de l'ego, c'est très dangereux. Et les maîtres, les moindres moindres sages le savent. Pour que l'homme travaille avec les forces qui sont en lui, il faut qu'il soit lui-même en force. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit lui-même en intelligence. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en harmonie avec l'énergie qui passe en lui. S'il n'est pas en harmonie avec l'énergie qui passe en lui, il ne peut pas comprendre cette énergie, donc il l'intellectualisera, il la spiritualisera, il fera de la philosophie sur elle et automatiquement il devra en payer le prix parce que l'énergie qui passe dans l'homme est une énergie qui est indifférenciée. Et comme elle est indifférenciée, elle devient différenciée seulement dans son utilisation. Donc, c'est seulement lorsque l'homme utilise cette énergie qu'elle devient différenciée. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il est capable de bien l'utiliser parce que ses centres sont ajustés à elle. Mais s'il travaille au niveau de l'ego et qu'il se sert de cette énergie sans être en harmonie vibratoire avec elle, en passant simplement par une constatation astrale de sa présence, donc, à ce moment-là, il peut se mettre en danger. Et c'est là que nous avons des cas dans l'humanité, dans l'Orient comme dans l'Occident, de personnes qui atteignent des niveaux de folie parce qu'ils déclenchent en eux des forces qu'ils ne sont plus capables de contrôler. Il faut, comme disait le grand Aurobindo, il faut que l'énergie descende d'en haut, il faut que l'ouverture des chakras se fasse d'en haut, c'est-à-dire qu'il faut que l'ouverture des centres cosmiques de l'homme se fasse par la partie cosmique de l'homme, et la partie cosmique de l'homme, c'est son double. Et ce double, il doit être créé, il doit être développé, il doit être perfectionné, parce que tous les hommes ont un double, mais le double qu'ils ont est un double qui est à la fois vital et astral. Ce n'est pas un double qui est le produit de la concentration d'énergie astrale et mentale sur un plan supérieur. Donc, tant que l'homme n'a pas construit le double, il ne peut pas être en harmonie avec cette énergie indifférenciée, donc il ne peut pas comprendre parfaitement sa relation avec elle, donc il se met en danger s'il travaille avec cette énergie.
Et de là la protection qu'il trouve dans les morales, les religions, les sociétés avec certains préjugés ou certaines techniques ou certaines réalités qu'on admet dans un cas et dans une autre société, ce sera d'autres réalités qui seront admises.
Chaque société interprétera la réalité psychologique des fonctions énergétiques de l'homme selon sa doctrine, selon sa philosophie, selon son illusion.
Alors, si on partait de zéro, ou peut-être même moins neuf, la naissance d'un être humain sur la Terre, comment descend cette énergie dans la cellule qui va devenir un être humain?
Cette énergie, elle est présente dans la cellule au moment où il y a interaction entre le mental de l'homme ou le corps astral de l'homme. Autrement dit, si nous prenons l'homme comme étant un aspect très perfectionné de la nature animale, aussitôt qu'il y a contact entre le mental humain ou l'astral humain ou au niveau de la plante, l'éthérique plantaire, à ce moment-là, il y a dans les plans supérieurs une résonance qui s'établit et l'énergie commence à descendre et elle descend au niveau le plus bas de la constitution matérielle de la forme, et ceci se trouve dans notre organisation sur le plan génétique. Et à ce moment-là, l'énergie se fait par résonance, elle s'établit par résonance, et comme elle est résonante, l'énergie, elle n'a pas besoin d'être amenée vers la matière par le corps de désir. Elle peut être amenée dans la matière simplement par interaction biologique, interaction physique, et même dans certains cas, par interaction où l'homme ou la femme n'ont eu aucun contact mental ou astral. Il y a des cas où des êtres humains ou des femmes ont donné naissance à des enfants parce qu'il y a eu résonance dans leur énergie et ces hommes ou ces femmes n'ont jamais eu de contact sexuel.
On compare souvent l'ovule porté par la femme comme une planète, le spermatozoïde de l'homme comme un cosmonaute qui arrive et insémine la planète, agit sur la planète et en crée une civilisation nouvelle. Alors, quelle différence y a-t-il entre l'ovule, sur tous les plans cosmiques et tout le reste, et aussi pour le spermatozoïde?
L'ovule, sur le plan cosmique, représente une spirale d'énergie. C'est une spirale qui est constamment en mouvement, qui est constamment en évolution. L'ovule ne cesse jamais de pulser. Il est toujours actif. Le sperme d'or, il devient actif lorsque l'ovule a été mis en résonance. Les gens pensent que c'est le sperme qui donne la vie à l'ovule. Ce n'est pas le cas. C'est l'ovule qui vibre et qui, par sa vibration, par sa résonance, attire le sperme à lui. Et c'est ça qui fait le choix. C'est la femme qui attire à elle sur le plan biologique, sur le plan micro, les aspects de l'homme qui sont fécondants. Ce n'est pas l'homme. On pense dans la, sur la terre que c'est l'homme qui féconde la femme, ce n'est pas le cas. C'est la femme qui appelle l'homme à elle. Et cette constatation sera réalisée un jour lorsque, au niveau de la science, on aura pris conscience de la résonance de l'ovule et on verra que dans une matière quelconque, dans un médium quelconque, lorsque l'ovule est en, on dit dans les termes occultes, lorsque l'ovule frémit, le sperme est attiré à lui. Si l'ovule ne frémit pas, le sperme ne peut pas venir à lui. Et regardez dans le cas des animaux. Vous verrez dans le cas des animaux que si la femme ou la femelle, pour ainsi dire, rejette le mâle, il ne se passe rien. Sur le plan biologique, micro, c'est la même chose. Si l'ovule ne frémit pas, le sperme ne peut rien faire. C'est une illusion psychologique de la relation du positif avec le négatif qui fait que les gens, ou la science même aujourd'hui, croient que c'est le sperme qui donne ou qui rend possible la vie dans l'ovule. La vie, elle est déjà dans l'ovule, elle est toujours dans l'ovule. Le sperme, lui, dort comme l'ours en hiver. Et ça, c'est une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle la femme est obligée de vivre des périodes menstruelles et vivre pendant un grand nombre d'années cette activité physico-chimique et éthérique dans son corps. Tandis que l'homme, lui, ne vit pas ça. La femme, elle est toujours en vie. Il y a beaucoup plus de vie dans la femme que dans l'homme.
Pourquoi les cycles?
Les cycles menstruels? Les cycles menstruels sont des cycles qui relèvent de la formation dans la femme d'une génétique éthérique qui est directement liée à la lune. Il y a une relation entre la lune et la femme. Et la lune, elle, représente en fonction de la Terre une activité cosmique qui est très importante parce que c'est la lune qui attire l'énergie du soleil. Mais c'est l'attraction de l'énergie solaire par la lune n'est pas reconnue aujourd'hui, elle n'est même pas connue dans les doctrines ésotériques ou occultes. Parce que pour connaître les activités de la lune, il faut pouvoir aller dans la conscience lunaire, il faut pouvoir étudier l'esprit de la lune et parler avec l'esprit de la lune. Et lorsque l'homme parle avec l'esprit de la lune, il comprend les lois de la lune, et à ce moment-là, s'il est suffisamment fort, l'esprit de la lune expliquera à l'homme les lois du soleil. Et c'est par la lune que l'homme comprendra les lois du soleil, autrement dit, c'est par la femme que viendra sur la terre la conscience cosmique.
Et cette conscience cosmique vient du soleil?
La conscience cosmique est le résultat du passage de l'énergie du soleil à travers la femme sur la terre. Parce que ce qui est le problème de l'homme aujourd'hui, et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme ésotérique, mais je ne parle pas de l'homme qui... Je parle de l'homme occulte, je parle de l'homme qui est très près des mystères de la vie sur les autres plans. Ce qui est le problème de cet homme, c'est que l'homme aujourd'hui fonctionne encore par symbologie. Et la symbologie, c'est très dangereux en ce qui concerne l'évolution future parce que on ne peut pas atteindre la connaissance en se servant des symboles. Parce que les symboles sont déjà des formes qui ont été instruites dans le cerveau de l'homme pour l'empêcher d'avoir accès à la connaissance. Si on veut empêcher un homme d'avoir accès à la connaissance, on lui donne de la symbologie. Parce que la symbologie, elle est toujours ajustée à son caractère émotionnel ou à son caractère mental. Donc, la symbologie, elle est toujours fixée dans le caractère d'une nation. La symbologie de l'oriental, la symbologie de l'occidental, la symbologie de l'indien, la symbologie de l'esquimau, chaque peuple a sa propre symbologie et cette symbologie éventuellement devient une sorte de ciment à l'intérieur de laquelle l'intelligence de la race piétine et tant que l'homme n'est pas capable de sortir, de tuer, de détruire les formes de la symbologie, il ne peut pas rentrer dans l'énergie de l'intelligence, donc il ne peut pas comprendre les rapports énergétiques entre les différents plans d'évolution. Entre le sperme et l'ovule, entre la lune et le soleil, entre la terre et le soleil et la lune, et ainsi de suite. L'homme ne peut pas comprendre les lois de l'énergie. Et il faut que l'homme comprenne les lois de l'énergie parce que c'est l'énergie qui est à la base de tout. C'est l'énergie qui prend dans l'homme la quantité essentielle dont il a de besoin pour transmuter son oxygène. C'est l'énergie. L'oxygène, ce n'est pas une énergie. L'hydrogène, ce n'est pas une énergie, c'est une composante de l'énergie, c'est une physicalité de l'énergie, mais qui n'a aucun rapport avec l'énergie elle-même. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui nous sommes obligés sur la Terre de créer des systèmes énergétiques à partir de particules qui sont déjà mortes d'énergie. C'est pour ça que aujourd'hui, nous sommes obligés constamment de créer des carburants qui brûlent et de recréer des carburants qui brûlent au lieu de se servir d'une énergie qui est sans fin, mais une énergie qui n'est pas fondée sur les stocks infinitésimales de l'atome. L'homme doit aller plus loin, mais pour que l'homme aille plus loin, il faut qu'il ait l'intelligence de l'infinité. Il faut qu'il comprenne les lois de l'énergie. Autrement dit, il faut que son mental soit fusionné avec l'énergie. Et à ce moment-là, il peut commencer à donner, à ouvrir pour l'humanité la boîte de Pandore. Il peut, à ce moment-là, ouvrir pour l'humanité les secrets extraordinaires de la science cosmique.
Vous utilisez encore très souvent le mot « homme » qui, des fois, pourrait être mieux remplacé par le mot « humain ».
Quand j'emploie le mot homme, je l'emploie dans un terme générique, mais je peux employer le terme humain si ça crée une confusion. Pour moi, le mot homme, quand je parle de l'homme universellement parlant. Sinon, je parle du mâle, de la femelle, ou en général, je suis suffisamment précis dans ce que je dis.
Bon, alors maintenant, c'est que la langue est peut-être pas précise, et vous avez déjà dit que les mots, il faut faire attention.
Oui, c'est-à-dire que la langue est précise, c'est la façon dont nous employons la langue qui nous empêche de dire exactement ce que nous voulons dire. Mais comme je suis dans un champ d'énergie qui pulse à une très haute fréquence, j'ai tellement de choses à dire que j'essaie de prendre le chemin le plus court. Donc, c'est pourquoi souvent je vais employer un terme lorsqu'en fait je pourrais en emprunter un autre. Mais avec le temps, les gens me connaissent et me comprennent, et donc à ce moment-là, on peut passer par-dessus, ne pas perdre trop d'énergie avec les mots.
Si on en revient encore aux spermatozoïdes et à l'ovule, les spermatozoïdes doivent se combattre pour atteindre l'ovule, un peu comme les mâles chez les animaux doivent faire la guerre des mâles, la confrontation pour que le plus fort, le plus résistant ait droit aux femelles. Est-ce que c'est la même chose sur le plan cosmique aussi, que tous ceux qui veulent atteindre une planète sont obligés de se confronter pour atteindre la planète qui, elle, est prête, comme vous disiez tantôt?
Le concept du combat, c'est un concept très intéressant. Il y a combat dans le cosmos là où il y a émotivité. Là où il n'y a pas d'émotivité, il n'y a pas combat, il y a simplement réagencement ou activité maximalisée pour la conquête du territoire. Sur le plan humain, il y a émotivité, donc il y a combat. Sur le plan cosmique, il n'y a pas combat, il y a lutte. Le mot lutte sur le plan cosmique n'implique pas l'implication de l'émotion. Le terme combat implique l'activité émotionnelle. Sur le plan cosmique, il y a lutte parce que sur le plan cosmique, à cause des différents plans d'évolution, les êtres qui sont les plus évolués sont obligés constamment de remettre en place les activités ou de corriger les activités d'êtres inférieurs. Donc, il y a lutte parce que il y a plus d'êtres inférieurs dans le cosmos que d'êtres supérieurs. Donc, il y a toujours le phénomène de la relation entre l'apex de la pyramide et la base. Et la base essaie, à cause de son nombre et de sa grande numérologie, elle essaie de prendre plus de place dans le cosmos qu'elle ne devrait, mais elle doit prendre beaucoup de place parce que, justement, il y a un grand nombre d'activités ou d'entités en activité. C'est pour ça qu'il y a toujours le phénomène de lutte. Le seul endroit dans le cosmos où la lutte n'existe pas, c'est dans le centre même de l'univers, qu'on peut appeler l'île paradisiaque. C'est un terme qui fait partie des connaissances ésotériques qui sont données à l'homme aujourd'hui. Et il y a un autre terme qu'on peut donner à l'île paradisiaque, c'est le centre parfait du retour éternel de l'involution. Alors à ce moment-là, dans ce centre-là, le combat n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et c'est à partir de cette étape de l'évolution, c'est à partir de ce lieu dans le temps et dans l'espace intemporel que se situe ce que nous appelons les Alephs, le Dieu, les dieux, parce qu'il n'y a pas seulement qu'un Dieu, il y en a plusieurs. Donc, la lutte à ce moment-là n'existe pas. Mais c'est à partir de ce plan-là, si vous voulez, que commence dans le cosmos la lutte, qui devient plus loin le combat, et qui devient plus bas dans l'échelle de l'évolution, l'agencement des différentes forces biologiques pour la conquête du territoire.
Normalement, pour que le spermatozoïde atteigne l'ovule, il faut qu'il y ait eu une forme d'orgasme entre les deux partenaires. Que signifie cet orgasme sur le plan physique, physiologique et cosmique?
Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait orgasme entre les deux partenaires pour qu'il y ait connexion. L'orgasme entre les deux partenaires est simplement un aspect de la conscience cosmique sur le plan sexuel pour permettre aux êtres humains d'avoir le plaisir vibratoire de l'énergie afin de réaliser par leur mémoire que ça vaut la peine d'être fait encore pour qu'il y ait, au cours de l'évolution, une procréation constante et continue.
Donc l'ancienne technique religieuse qui disait « faites des petits, mais moins vous jouissez, mieux fait ».
Non, les dictées anciennes des clercs ou de ces êtres religieux faisaient partie de la psychologie religieuse de ces temps-là, tout simplement.
Aujourd'hui, on est peut-être dans l'excès contraire, on dit « trouvez votre jouissance par quelque moyen que ce soit, c'est l'essentiel ». Alors, où situer l'équilibre entre les deux, justement? Est-ce que la jouissance ou l'orgasme est une partie importante? Et je référerai à des textes qui nous rappellent la vie des saints, qui, eux, ne nous parlent pas d'orgasme, ce serait péché. Ils nous parlent de l'état de félicité de certaines saintes et de certains saints qui sentent en eux la présence de Jésus qui les pénètre. Et cet état de félicité qui ressemble très étrangement à l'orgasme. Alors, qu'est-ce que c'est qui se passe physiologiquement au moment de l'orgasme?
Au moment de l'orgasme, il y a une concentration d'énergie cosmique sur un plan inférieur de l'homme. Autrement dit, vivre l'orgasme dans une instantanéité, c'est équivaut à vivre sur un plan plus vaste l'énergie cosmique. Autrement dit, lorsque l'homme vit l'énergie cosmique dans le mental, lorsque l'homme vit l'énergie cosmique dans le corps astral, lorsque l'homme vit l'énergie cosmique dans un centre, c'est toujours la même énergie. Sur le plan sexuel, nous appelons ça l'orgasme. Autrement dit, l'orgasme, c'est la connexion instantanée, très courte, de ce centre d'énergie avec cette énergie qu'on appelle l'énergie cosmique. Et c'est le plus près dans l'expérience de l'homme qui lui permet de vivre l'infinité de l'énergie sans être affecté par son ego. C'est pourquoi d'ailleurs c'est si puissant, c'est pourquoi c'est si plaisant, et ainsi de suite.
Est-ce que ça peut être provoqué par le mental de l'être humain, comme je pense aux saints qui sont seuls, sans contact avec un partenaire, et qui atteignent cet état de félicité, de jouissance intense?
L'état de félicité du saint se situe au niveau du corps astral, donc sa félicité, c'est un autre ordre de félicité, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus grande, beaucoup plus stable, beaucoup plus près du mental, donc beaucoup plus reconnaissante sur le plan de la conscience. Donc beaucoup plus élevé, et il y a à l'intérieur de cette publicité des expériences phénoménales qui relèvent du contact entre des entités dans l'astral et l'être humain, ainsi de suite. Donc ce sont des expériences qui sont d'ordre différent, mais l'énergie est toujours la même. Mais il ne faut pas prendre mes mots et dire que j'ai dit que être dans un état de sainteté, c'est la même chose que d'être dans un état d'orgasme.
Est-ce qu'on peut avoir un état de forme de contact qui s'appellerait l'orgasme sur le plan physique ou de félicité sur le plan astral, mais cet état semblable, mais sur le plan mental pur?
Oui, sur le plan mental, ce même orgasme existe, si vous voulez employer des termes en parenthèse, mais c'est un autre ordre. L'énergie vécue dans le mental, moi peut-être que je le vis, ça, cet orgasme dans le mental, je déteste cette comparaison. Mais Mais le plan mental est beaucoup plus vaste encore que le plan astral, c'est un plan qui est continu, qui a beaucoup plus de continuité.
Lors de votre fusion, l'énergie a passé un peu comme lorsque un homme est en fusion avec une femme et il y a une énergie qui passe et ça procrée.
Oui, mais comme je dis, je dois faire attention parce que je déteste les analogies. Je sais très bien que la manifestation de l'énergie cosmique sur le plan sexuel est la plus courte. Sur le plan astral, elle est plus longue. Sur le plan mental, elle est très longue, permanente et continue. Donc, un homme qui vit l'énergie cosmique sur le plan sexuel, il la vit d'une façon très courte. Sur le plan astral, plus longue. Et sur le plan mental, elle est continue et permanente. D'ailleurs, c'est ça la fusion. La fusion, c'est un état, entre parenthèses, d'orgasme permanent. Mais c'est pas ce que je veux dire.
Sur le plan physique, Atteindre l'orgasme, on en connaît plusieurs techniques. Sur le plan astral, quelles seraient les techniques?
Sur le plan astral, les techniques... D'ailleurs, lorsqu'on parle d'orgasme sur le plan physique, on ne peut pas parler d'orgasme sans parler de l'activité astrale. Parce que l'homme vit sa sexualité beaucoup en fonction de son imagination. Et il y a des hommes qui se donnent des expériences dans le plan astral. Il y a des hommes qui vont dans l'astral et qui préparent dans l'astral leur activité avant de la vivre sur le plan matériel.
Ce qu'on appelle les fantasmes.
Les fantasmes sont un aspect de ceci, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des êtres qui sont capables d'aller dans le monde astral et de préparer tout le scénario de leur activité. Même il y a des êtres qui préfèrent leur activité, vivre leur activité sexuelle dans le plan astral que de la vivre sur le plan matériel. Parce qu'elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus grande, les corps sont beaucoup plus harmonieux, les êtres sont beaucoup plus grands, il y a beaucoup plus d'intelligence et il y a beaucoup plus d'harmonie entre les couples. Mais ces êtres-là sont comptés, il y en a très peu.
Alors, quelles seraient les techniques, justement, pour le vivre sur le plan astral? La méditation, la prière, la contemplation?
Ça dépend de l'orientation psychologique de l'individu, ça dépend avec qui il est en contact sur le plan astral, parce que pour aller sur ces plans-là, il faut être amené là par quelqu'un, il faut avoir un complice, il faut avoir accès à un maître, il faut... être en contact avec quelqu'un qui déjà connaît ces mondes-là. On ne peut pas aller dans ces mondes-là sans invitation. On ne peut pas visiter ces mondes-là sans... parce que c'est très vaste, le monde astral. On peut facilement se perdre. Donc, il faut qu'il y ait connivence, qu'il y ait complice. Si un homme, par exemple, avait dans le passé pratiqué une certaine sexualité très astrale, très sadique, très sadique, très négative, une sexualité très animale, automatiquement, il aurait la chance d'être en contact avec des entités qui travaillent sur ces plans-là et qui pourraient l'amener à vivre et à raffiner sa sexualité pour en développer des avantages humains plus occultes, plus secrets, qui feraient concentrer beaucoup plus d'énergie sexuelle sur la Terre qu'il en est nécessaire.
Évidemment, pour vous, Bernard, qui considérez que l'astral est un monde très, très pollué, vous imaginez peut-être très mal qu'il y a peut-être aussi l'autre technique qui permet d'entrer en relation avec des maîtres de l'astral, mais pas sur le plan sadique, négatif, mais ça peut être aussi sur le plan très positif.
Oui, il y a, naturellement, sur les très hauts plans de l'astral, on ne s'occupe pas de la sexualité. Sur les très, très hauts plans de l'astral, on ne s'occupe pas de la sexualité. Sur les plans médians, oui, mais pas sur les très hauts plans de l'astral. Là où les grands maîtres sont dans l'astral, il y a beaucoup d'autres activités essentielles pour eux que d'enseigner à l'homme la sexualité. Ce sont sur les plans médians qu'on s'occupera de la sexualité.
On relie très souvent les gens qui vivent dans l'astral aux artistes. Les gens qui sont des créateurs, artistes de l'imagination, de la créativité. Et on sait que très souvent, ces artistes ont des manifestations sur le plan biologique d'une sexualité assez spéciale, aberrante dans toutes sortes de domaines. Comment associer cette créativité positive qui leur vient de l'astral à une sexualité marginale par rapport au fait de procréation, point, c'est tout?
On parle de sexualité marginale. La sexualité marginale, tout est marginal qui ne convient pas socialement à une convention culturelle, à une convention nationale. Le mot marginal n'a pour moi aucune signification particulière. Aussitôt qu'un homme, d'ailleurs tous les hommes qui ont le moindrement marqué le monde ont été marginaux. C'est impossible à un homme qui est suprasensible ou supra quelque chose de ne pas être marginal. Donc, les êtres marginaux sont réellement les êtres qui font évoluer l'humanité. Naturellement, à l'intérieur de la marginalité, il peut y avoir une marginalité décadente, comme il peut y avoir une marginalité créative. Et ceux qui vivent la marginalité décadente font déjà partie de la cadence. Ceux qui vivent la marginalité créative font partie de l'autre aspect. Mais on ne peut pas... Bon, il y a tellement de choses à dire. Une des choses que moi, en tant qu'homme, j'ai réalisé depuis la fusion, c'est que il est absolument impossible, sur le plan cosmique, à un homme de juger un autre homme. Et ceci a été dit auparavant par d'autres initiés. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on arrive à l'homosexualité, et je me servirai de ceci pour expliquer ce que je veux dire. Nous avons dit au début de la soirée que l'esprit est en dehors de la polarité. Donc l'esprit est en dehors du bien et du mal. C'est l'homme qui est prisonnier du bien et du mal. C'est l'homme qui, dans son expérience, qualifie de bien ou de mal selon les coordonnées progressives ou évolutives de sa société, de sa nation, de sa culture, de sa race, qui définit, selon les mœurs de son temps, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mais si nous regardons les choses du point de vue cosmique, autrement dit, du point de vue du gouvernement invisible, à ce moment-là, tout ce qui se passe dans l'expérience de l'homme, de l'être planétaire qui n'est pas encore cosmique, fait partie de l'expérience dans la matière de l'esprit. Et un jour vient le point, si l'être est suffisamment évolué, où il y a fusion entre l'esprit et la matière. Et lorsqu'il y a fusion entre l'esprit et la matière, le taux vibratoire de l'être change. Donc, à ce moment-là, la qualité mentale, la qualité astrale, la qualité vitale et la qualité physique de l'être change. Donc, toute dénomination, toute catégorisation de l'action humaine en tant qu'expérience n'est plus soumise aux lois de la pensée humaine, elle est soumise à la dictée télépathique de l'être avec le cosmos. Donc, à ce moment-là, l'être devient, découvre son identité, devient totalement centrique, devient totalement autonome, et il est capable de vivre sa vie selon le besoin de son énergie, tout en respectant la nature de la vie polarisée de la civilisation à l'intérieur de laquelle il vit. Donc, c'est très important dans le cycle qui vient surtout au 21e siècle. Et d'ailleurs, ça nous est imposé de plus en plus, d'une façon inconsciente aujourd'hui. Ça devient très important pour les hommes. Si les hommes de la Terre veulent évoluer, ils devront apprendre à regarder l'expérience de l'autre homme, des autres êtres, et de ne pas les porter en jugement. Et s'ils font ceci, il se produit ceci. Ils sont obligés d'absorber le choc émotionnel dans leur corps astral. Ce choc change la nature de leur corps astral, change leur mental et leur donne une conscience plus grande, c'est-à-dire que ça élargit dans le contexte leur esprit. Et lorsque l'esprit très très élargi, que la conscience de l'homme devient très vaste, à ce moment-là, l'homme n'est plus prisonnier des petites constatations marginales qu'il fait dans son expérience.
Comment parler à quelqu'un qui, s'il voit un homosexuel, il voudrait y planter son poing entre les deux yeux, quelqu'un qui ne peut pas digérer quelqu'un qui n'est pas pareil comme lui?
C'est parce que c'est une personne qui est myopique, c'est une personne qui est épris d'elle-même, c'est une personne qui se prend pour un autre, c'est une personne qui se prend au sérieux, c'est une personne qui manque totalement de maturité.
Ou mais quelqu'un qui vous répondrait, oui, mais la sexualité ne sert pas à se faire du fun, ça sert à faire des types,
bon.
C'est pas des...
OK. OK.
Ça fera pas des enfants forts comme on entend souvent.
Bien. Le point dans le traitement très délicat de l'homosexualité, il est ici, à ce stade de la conversation. L'homme découvrira un jour, lorsqu'il sera en communication télépathique avec les plans, les mondes parallèles, il découvrira que l'expérience humaine sert à l'évolution de l'esprit et non pas à meubler le petit esprit de l'homme. Autrement dit, l'esprit, un être, par exemple, qui est homosexuel, il est dans un corps matériel, il vit une certaine souffrance parce qu'il est marginal, il vit dans une société qui rejette son activité, son expérience. Et cet être-là, pourquoi souffre-t-il? Parce qu'il n'est pas conscient dans son esprit des lois de son incarnation. S'il était conscient des lois de son incarnation, s'il savait pourquoi il est homosexuel, pourquoi il est né dans telle famille, pourquoi les conditions de son homosexualité, on lui répondrait de l'autre plan pourquoi. Et donc, il serait automatiquement lavé de toute culpabilité sociale ou personnelle vis-à-vis de cette action. Mais, en même temps, il aurait la maturité, c'est-à-dire l'intelligence, de son action, de son activité, et il serait suffisamment mûr pour ne pas troubler l'humanité ambiante. Le problème avec beaucoup d'homosexuels, c'est que beaucoup d'homosexuels ont troublé l'humanité ambiante. Et quand on trouble l'humanité ambiante et qu'on fait partie d'une minorité, il est évident qu'on peut s'attendre à des chocs en retour. Et si l'homosexuel ne troublait pas l'humanité ambiante, si, autrement dit, l'homosexuel était un homosexuel normal, comme il y en a d'ailleurs, moi j'en connais des homosexuels qui sont des homosexuels normaux, des gens très bien, et je vous dis que quand je parle de gens très bien, je parle dans toutes les sphères de la société humaine, même dans la politique mondiale. Il y a des êtres homosexuels qui voilent leur activité parce que ils savent, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas ouvertement, dans l'humanité ambiante qui est extrêmement primitive aujourd'hui sur le plan psychologique, dévoiler leur jeu. Et ces êtres-là ont, dans le monde, une présence très effective. Donc, il y a des homosexuels, alors, nous respectons Michel-Ange. Alors, homosexuel, si c'est Michel-Ange, ça va. Mais si c'est le petit bonhomme à côté de chez nous, ça va plus. Hein? Homosexuel, si c'est un grand bonhomme de l'histoire, ça va. Mais si c'est le bonhomme à côté de chez nous, ça va plus. Donc, il y a chez soi une sorte de présomption, il y a chez soi une sorte d'attitude. Et tant que l'homme aura des attitudes vis-à-vis de l'homosexuel sera obligé de vivre son expérience, et ceci fait partie de son karma, ceci fait partie de sa souffrance. Et s'il a les clés, et s'il connaît, et s'il comprend la relation entre son expérience et son incarnation, et son esprit, et entre éventuellement en contact avec les plans qui peuvent bien lui expliquer sa situation, il ne souffrira plus de son homosexualité, et il sera un homosexuel heureux, il sera un homosexuel normal. Comme il y a des êtres hétérosexuels normaux, il sera un homosexuel normal. Ce n'est pas à l'homme, subjectivement, culturellement, au niveau de ses mœurs, en fonction de ses principes religieux ou de ses principes statutaires, de dire que l'homosexuel, c'est un être qui est anormal. Il n'y a pas d'anormalité dans la nature. Il y a dans la nature des aspects qui relèvent d'une décision qui a été prise sur des plans invisibles avant l'incarnation. Ça, c'est comme le jeune homme qui vient au monde avec une tête d'eau, le jeune homme qui est totalement difforme. Nous, dans la société, nous le considérons comme anormal, mais nous avons précieusement essayé de le protéger. Nous lui donnons un environnement pour l'aider, mais nous ne faisons pas la même chose pour l'homosexuel. Nous n'oserions pas aider l'homosexuel. Nous n'oserions pas définir des lois sociales, des lois psychologiques ou des principes quelconques de vie sociale pour ces êtres-là, parce que déjà ces êtres-là ne sont pas anormaux dans un sens physique, mais ils vivent une abnormalité qui n'est pas psychologiquement anormale. C'est-à-dire qu'ils vivent en dehors des lois du biologisme, du déterminisme biologique. Et ceci fait partie de leur karma, ça fait partie de leur expérience. Et si eux peuvent le vivre cette expérience sans être troublés dans l'émotionnel et dans le mental, ils vivront très bien leur expérience, parce que c'est absolument nécessaire, c'est absolument essentiel qu'il y ait dans une civilisation de l'homosexualité. C'est impossible, et d'ailleurs il n'y a jamais eu de civilisation sur la Terre qui n'a pas eu son homosexualité. Les Hindous ont eu leur homosexualité, les Indiens ont eu leur homosexualité, les Grecs, les Romains, toutes les civilisations de la Terre ont eu leur homosexualité. Pourquoi? Parce que l'homosexuel est le lien entre l'homme et la femme. Il est cette présence dans la matière qui permet temporairement, pendant l'évolution, que l'énergie de la femme passe vers l'homme et que l'énergie de l'homme passe par la femme. Ça, c'est sur le plan cosmique. Donc, l'homosexuel a une fonction cosmique sur la Terre, mais lui, en tant qu'individu, il ne la voit pas. Il ne la connaît pas. Donc, comment la souffre-t-il? Il la souffre en relation de son déterminisme biologique qui est confronté à un déterminisme biologique qui est universellement contre lui. Donc, il n'est pas capable de logiquement prendre possession de son expérience. Et tant que l'homosexuel ne prendra pas possession de son expérience, il sera assujetti au jugement d'une société ou d'une ambiance, d'une humanité ambiante, qui, à cause de son nombre, de sa majorité, aura le droit de juger en chef son comportement psychologique.
Là, je pense que ça clôt assez clairement.
Ça nous donne un peu l'idée.
pour l'homosexualité. Maintenant, si tout est normal, que penser de la pédophilie?
La pédophilie?
Les adultes qui s'intéressent à des enfants.
Dans quel sens?
Laisser venir à moi les petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui retrouvent ou qui recherchent la présence des enfants pour une initiation sexuelle précoce.
Il y a dans toute expérience, de la maturité ou un manque de maturité. Ça, c'est un point commun. Il y a dans toute expérience un ajustement qui doit être fait au niveau du corps astral. Ce genre d'expérience dont vous parlez n'est pas plus différent que l'autre genre d'expérience, par exemple, où le type va dans un magasin et se sent obligé de voler. Alors, le type qui va dans un magasin, qui est attiré à prendre quelque chose et de mettre dans sa poche, il est poussé par la même énergie que le bonhomme qui va vers le jeune. Il ne s'agit pas pour nous de juger ces êtres-là. Il s'agit pour nous de leur faire comprendre. Il s'agit pour nous d'avoir une science psychologique du mental qui puisse éventuellement altérer la vibration de leur corps astral pour qu'ils ne puissent plus résonner à cette énergie, donc en être libérés. C'est ça de la psychologie. En attendant que nous ayons des écoles ou des universités ou des psychologues ou des psychiatres ou des éducateurs qui connaissent les lois de l'énergie, les lois de l'esprit, à ce moment-là, nous sommes obligés de traiter avec ces gens d'une façon légaliste et automatiquement nous empiétons dans le domaine de leur expérience pour le bénéfice d'une humanité ambiante, pour sauvegarder les mœurs d'une société. Et c'est le rôle de la société de se protéger, mais c'est le rôle de l'individu de comprendre son prédicament. Donc les gens qui sont tels que ceux que vous me décrivez, ces gens devraient, parce qu'aujourd'hui, il y a dans le monde, moi je suis un individu dans le monde qui parle, il y a des individus dans le monde qui offrent d'expliquer ce qui ne se comprend pas au niveau de leur psychologie. Donc si ces gens ont besoin de comprendre leur nature, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le type qui est pédophile, qu'il est heureux de faire ce qu'il fait. Il faut s'asseoir avec lui et réaliser qu'il vous dira, quelque part dans la conversation, qu'il n'est pas capable de s'empêcher. Il n'est pas capable de s'empêcher, il est poussé vers ces jeunes. Donc, s'il est poussé par ces jeunes, il est poussé par des forces. S'il est poussé par des forces, il y a un contact astral entre lui et ses forces. Donc, ce contact doit être brisé, mais nous n'avons pas de psychologie. Nous n'avons pas de science psychologique du mental pour expliquer à l'homme cette condition et briser le lien entre l'astral et lui. Donc, la situation de ces êtres est une situation d'expérience, c'est une situation karmique, ça fait partie de l'évolution de leur esprit et ça fera partie un jour de l'évolution de la société humaine, de comprendre les lois occultes du psychologique humain afin de libérer finalement, une fois pour toutes, l'homme de toutes les contraintes psychologiques qu'il connaît, qu'il vit, parce qu'il ne connaît pas les lois de son esprit, ne connaît pas les lois de l'âme, ne connaît pas les lois de l'ego, ne connaît pas les lois de la mémoire. Ça fait partie de l'évolution de la nouvelle société.
Quand vous disiez tantôt, il ne peut pas s'en passer, ça peut très bien s'associer aussi aux hétérosexuels, les hommes qui disent, moi, ça me prend une femme absolument.
C'est la même chose, Moi, je me rappelle, j'avais fait un séminaire et j'avais reçu cette dame qui pleurait, qui était absolument dépourvue et qui me disait, mon mari, ça n'a pas de sens, il vient à la maison à 11h le matin, moi je suis dans la cuisine, il baisse ses culottes, à 3h de l'après-midi, il revient à la maison, je suis dans la cuisine, il baisse ses culottes, 6-7 fois par jour. Donc lui, il était en proie à la même énergie, seulement qu'il était déjà protégé parce que dans la société hétérosexuelle, c'est normal. Et c'est peut-être bien vu dans certains quartiers que l'homme puisse faire vibrer sa femme aussi souvent dans une période aussi courte.
La chose peut être inverse aussi. Il y a des femmes qui en ont besoin très souvent.
Très
bien. Mais alors, qu'est-ce qui signifie qu'il y a des gens qui en ont vraiment souvent besoin et d'autres qui en ont à peu près jamais besoin?
Parce que c'est la surexcitation du corps astral fait partie aussi de l'expérience. Un homme qui entre moindrement, le moindrement dans une conscience supérieure, se voit automatiquement, naturellement désinvesti de cette capacité sexuelle désordonnée, automatiquement. D'ailleurs, moi, je sais, je fais des séminaires et je vois des gens qui viennent me voir quelque temps par la suite et qui me disent que leur activité sexuelle, leur appétit sexuel s'est un peu radouci, ils ont pris un peu de recul, ils ne vivent plus de la même insécurité psychologique vis-à-vis de leur sexualité. Donc, c'est un ajustement du corps astral. Vous savez, le problème de l'homme sur la Terre, ce n'est pas dans le fait. Ce n'est pas seulement dans le fait qu'il ne se comprend pas. C'est dans le fait qu'il est fait de principes vibratoires. Il est fait de certaines énergies. Le mental, c'est un champ de force. Pardon. Le corps astral, c'est un champ de force. Le corps vital, c'est un champ de force. Et ces champs de force, s'ils sont le moindrement désaxés, le moindrement désordonnés dans leur vibration, imposent sur l'ego une très grande souffrance. Et il faudra un jour que la psychologie soit suffisamment avancée pour pouvoir traiter, non pas d'une façon chimique, mais d'une façon verbale, de ces extrêmes de température, de ces extrêmes d'activité, pour que l'homme puisse vivre une vie normale. Vous pensez que l'homme qui doit venir chez lui 7 fois par jour, qui doit laisser son travail pour voir sa femme dans la cuisine, vous pensez que lui, il est heureux? Évidemment, il vibre, mais il sait très bien qu'il a un problème psychologique quelque part. Mais le pire, c'est que ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème astral qui devient un problème psychologique. La même chose avec l'homosexuel, la même chose avec le pédophile. Le problème, il devient psychologique, parce qu'il n'est pas compris. Mais au début, c'est un problème astral. C'est une surexcitation du corps astral. Et avec la surexcitation du corps astral, vous avez une télépathie inconsciente entre l'astral et l'homme, que j'appelle la pensée subjective inconsciente, et automatiquement, le cirque commence. Et regardez dans les annales de la criminologie, à tous les niveaux, dans ses aspects les plus bénins, jusque dans ses aspects les plus sensationnels, vous verrez qu'il y a toujours une activité astrale qui n'est pas sous le contrôle de l'ego. Et c'est pourquoi l'homme fait partie de ce que j'appelle l'involution, et que l'homme doit aller vers l'évolution. Là où il pourra avoir un mental, un astral, un vital et un physique qui est totalement ordonné. Donc, à ce moment-là, il entrera dans une nouvelle conscience.
Peut-être que dans tout ce qui pourrait être marginal, ce qui est le plus marginal entre tous, c'est peut-être les transsexuels. Ceux qui, dans leur essence, dans leur intimité propre, dans leur hormone, se sentent pas dans leur peau. S'ils sont nés hommes, ils se sentent femmes. S'ils sont femmes, ils se sentiraient mieux hommes. Qu'est-ce que c'est qui se passe dans ça?
Chez le transsexuel, il y a une affinité astrale pour le bien-être sexuel femelle. Autrement dit, chez le transsexuel, il y a une conscience astrale qui s'imprime sur son centre sexuel et qui lui donne le bien-être de la femme ou le bien-être de l'homme. Et où se situe le bien-être de l'homme? Il se situe dans son pénis. Où se situe le bien-être? Je vais continuer sur ce que je dis parce que c'est pas fini. Je dois expliquer à la longue. Le bien-être de l'homme vis-à-vis le corps astral se situe dans son pénis. Le bien-être de la femme vis-à-vis son corps astral se situe aussi dans sa partie sexuelle. Alors, le transsexuel, lui, est très, très sensible par le biais du corps astral à ce bien-être. Donc, il y a une connexion extrêmement vitale, extrêmement électrique entre ce centre d'énergie astrale et le centre sexuel. Donc, le transsexuel, lui, se sent constamment poussé à vivre l'autre rôle. Ça fait encore partie du débalancement du corps astral. Ça s'explique, il peut le comprendre, mais pour le neutraliser, pour neutraliser cette connexion-là, il faut qu'il change de connexion mentale. Il faut qu'il change de partenaire, de complice dans l'astral. Parce que les hommes sont beaucoup plus dominés par l'astral qu'ils le pensent. J'ai déjà expliqué, d'ailleurs, c'est la fondation de mon instruction dans le monde occidental, que la nature même de l'intelligence humaine inconsciente est régie par des intelligences astrales. Donc, l'homme inconscient n'a aucun pouvoir sur son cerveau. Son pouvoir mental est le résultat d'une communication télépathique subliminale entre son cerveau et ses intelligences-là. C'est seulement lorsque ceci est brisé que l'homme entre dans son intelligence et qu'il peut, à ce moment-là, comprendre tous les aspects de lui-même.
Donc, en fin de compte, quelle que soit la révélation sexuelle que vit l'être humain sur Terre, il se retrouve à passer au niveau supérieur dans l'androgyna, sans sexualité mâle-femelle, sans polarité yin-yang, c'est l'unité.
Sur les autres plans, en dehors de l'astral, oui, il n'y a pas de polarité. Il ne peut pas y avoir de polarité dans le plan mental, parce que le plan mental ne s'exécute pas dans la matière comme le plan astral s'exécute dans la matière. Donc, l'homme qui est dans sa conscience supramentale, qui a une conscience supramentale, ne se voit pas en tant qu'homme. Il se voit en tant qu'être dans un corps mâle ou il se voit en tant qu'être dans un corps de femme. Donc, à ce moment-là, il ne souffre pas de la polarité et il peut très bien comprendre un ou l'autre.
Bernard, il reste à peine 5 minutes dans cette deuxième heure sur la sexualité et la troisième heure sera consacrée aux interventions du public qui seront faites par écrit. Pendant la pause, question de répondre très intimement à des questions très personnelles qui viennent du public en général. Je pense qu'on a réussi à faire un bon tour d'horizon sur les manifestations de la sexualité.
Vous savez que la sexualité, le phénomène humain, c'est très vaste. Très vaste. Et je demande aux gens qui m'écoutent, soit à la télévision ou de n'importe quelle façon, de toujours prendre en considération que si on ne me comprend pas à l'intérieur d'un thème, à l'intérieur d'une section de paroles expliquées, qu'on revienne à moi d'une façon ou d'une autre plus tard pour que j'explique. Parce que il est absolument impossible à l'homme de parler d'une façon permanente de la nature de l'homme, du phénomène humain, sans parler très très longtemps. Parce que l'esprit ne peut pas fonctionner comme l'intellect. L'esprit fonctionne d'une façon synthétique, très rapide, tandis que l'intellect, lui, fonctionne au niveau de la mémoire. Donc, si nous parlons surtout de la sexualité, si nous commençons à ouvrir un voile, ou dépasser le voile sur la sexualité, il est évident que les gens devront écouter très très longuement ce que nous devons dire, parce que même moi, j'apprends quand je parle. Donc, il est évident que l'homme doit apprendre à écouter avant de tirer des conclusions sur des mots qui souvent ne sont pas très bien formés parce qu'il y a trop de pression qui pousse derrière. Alors, nous devons être patients si nous allons bien comprendre les phénomènes extraordinairement complexes et très simples en même temps de la sexualité humaine. Il y a beaucoup à dire là-dedans.
Sans préjugés.
Il faut toujours être sans préjugés.
Sauf en ce qui concerne la destruction plutôt que la créativité.
Oui, mais les gens sont suffisamment intelligents pour réaliser la différence entre les deux.
Merci, Bernard de Montréal.